protagonistes que nous avons déjà entendus, Rav Bauer et Rav Gray, avec Rav Moshe, qui vont donc faire ensemble un échange sur l'étude d'une page de Gemara illustrée aussi par les propos qu'on a déjà eus donc, dans les séances précédentes sur Dor HaPlaga. Et donc, je vous passe la parole, je ne sais pas comment vous allez procéder.
Voilà, alors on va, vous proposer, si vous voulez, un genre d'étude à deux. Dans un premier temps, je vais d'abord simplement vous présenter la Gemara dont on va parler, puis on la reprendra, si vous voulez, point par point. Déjà avoir une vue d'ensemble de ce morceau de texte, qui n'est pas très long, et ensuite aborder l'ensemble des points. Alors, donc on peut prendre, c'est ce texte-ci, hein, le texte de Gemara, celui-ci. À côté, vous avez une photocopie des psukim, si jamais vous avez besoin des références, les psukim de la paracha qu'on avait vu hein, sur le Raflaga. En dernier, on verra, il y a un maharal aussi qu'on citera. Alors, on prend ce texte-là, donc Dor HaFlaga et Naim Chelokol Mabo. Oui, la génération de HaFlaga, donc de la tour de Babel, du partage, oui, et Naim Chelokol Mabo, ils n'ont pas part au monde futur. Hein, on est dans une Mishnah de Perek Relek qui parle des différents Dor, Sdom, ou oui, Dor HaMaboul, est-ce qu'ils ont une part au monde futur ou non ? Part au monde futur, bon, ça veut dire est-ce qu'ils ont été déracinés ? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'humain ? Est-ce qu'il leur restait ou non quelque chose d'humain, enfin de l'ordre de l'âme humaine ou pas ? Comme ça, je traduirais. Est-ce que les Chemin Prêtre Maboul, est-ce que leur méchanceté les a totalement déracinés ? Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à prendre là-dedans ou pas ? Maï Avoud. Donc là, on demande Maï Avoud, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, on reviendra là-dessus. Mayavut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'est peut-être pas évident. Quelle est leur faute? Quelle est la faute de Dor HaFlaga? Omre debe Rabbi Shila. Première explication. Rabbi Shila, au Bet Hamidrash de Rabbi Shila, on expliquait comme ça. Nivne, ils ont dit, ça veut dire, hein, Nivne, nous allons construire Migdal, une tour. Vena aller le Rokia. On va monter au ciel. Vena ke auto be Kardomot. On va frapper avec des marteaux sur les portes du ciel, si on peut dire, que des chez vous Meimav, pour que l'eau du ciel tombe. Parce qu'ils se sont dit, comme ça le Midrash ailleurs présente, il y avait le Maboul avant, oui, ils se sont dit, de temps en temps, on se prend le ciel sur la tête, si on peut dire, on se prend toutes les eaux du ciel sur la tête. Le mieux, c'est de faire fuir, si on peut dire, le ciel, de faire fuir l'eau du ciel, oui, pour ne pas qu'on se la prenne sur la forme. C'est une image, évidemment, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent, mais ils auraient voulu monter jusqu'au ciel, maîtriser l'eau, on va dire, maîtriser l'eau des nuages. Voilà. Et donc, faire tomber la pluie régulièrement, et pas en une seule fois, tous les 1600 ans, comme le dit ailleurs le Midrash. Voilà. Donc, on va frapper avec des marteaux, faire un trou là-dedans, pour que l'eau fuit, pour que l'eau qui est retenue s'en aille.
Et là, oui. C'est pour pas avoir à demander à Hachem.
Oui, il y avait ça aussi. Là, le Midrash, non, il y a d'autres Midrashim qui disent comme ça. Ça veut dire qu'ils voulaient eux-mêmes maîtriser la pluie. C'est encore autre chose. Mais sans demander la pluie à Hachem. Là, c'est pour éviter un déluge. On fait tomber l'eau, pas pour qu'il pleuve, mais pour éviter un déluge. Quoi. On fait fuir le barrage de Fréjus avant de se le prendre en entier. Quelque chose comme ça. Voilà. Mechaku ala bemarava. Alors, bemarava, ça veut dire en Occident, ça veut dire en Eretz Israël par rapport à Bavel, puisqu'on a le Talmud Bavli, hein. Et le Talmud d'Yerushalmi, oui, ben, Maharava, en Eretz Israël, ils se sont moqués d'eux. Quand on a entendu cette explication, Mechaku ala, ça a fait rire. Et ils ont dit, Imken, donc on reviendra sur ce rire aussi, Imken livnu echad betura, ils n'avaient qu'à construire leur tour sur la montagne. Tura ici, c'est la montagne. Rashi explique sur la montagne, parce que si vraiment ils veulent monter au ciel, eh bien qu'ils partent de haut, déjà. Or, on nous dit qu'ils ont trouvé une vallée. Ils ont construit leur tour dans une vallée. Donc, leur intention n'est pas spécifiquement de monter jusque dans les nuages. Oui, il s'agit d'autre chose. Hein. Autrement dit, bon, on reviendra là-dessus aussi. Ce midrash, je veux dire, il ne s'agit pas tellement d'aller vraiment au ciel. Ils ne veulent pas vraiment monter jusqu'au ciel. C'est une métaphore. Ils ont construit leur tour dans une vallée, pas en haut de l'Everest. Ils ne veulent pas absolument toucher les nuages. Ce n'est pas ça l'objectif. Voilà, on reviendra. Et là, et là, ou pas et là, d'après certains, il ne faut pas le lire, Omar Rabbi Irmiah bar Elazar propose une autre explication de la faute du Dor HaFlaga. Il faudra aussi comprendre en quoi c'est une faute. Hein. Mayavut, c'est ça que ça suggère. Où est le problème? Alors, Nirlekou, le Shoshakitot, pardon, ils se sont partagés, il y avait trois groupes. Achat Omeret, Nale Veneshev Sham. Un des groupes disait, nous allons monter Veneshev Sham et on va s'installer là-haut. Où ça, là-haut, il faudra voir, puisqu'ils ne veulent pas monter dans le ciel, donc ce n'est pas littéral. On a compris que ce n'est pas littéral. Ils veulent s'installer là-haut. Vous voyez, on veut se donner une grandeur, on veut monter là-haut. Point. C'est ça qu'ils veulent. Achat Omeret, deuxième groupe, Nale Venavod Avodat Kochovim. Le deuxième groupe dit, on va monter sur cette tour, ou monter la tour, peut-être pas monter en haut de la tour, mais dresser cette tour, Venavod Avodat Kochovim, pour faire une Avodazara, une idolâtrie face à Hachem. Point. Vachat Omeret, troisième groupe, dit, le troisième groupe a comme projet, Nale Venase Milchama. On va monter ou dresser cette tour en guise de défi Hachem. On va faire la guerre. C'est un défi. Apparemment, l'idolâtrie est moins un défi. Oui, c'est différent, on va aussi ouvrir. Et ici, Milchama, on veut faire la guerre. Zouche Omeret Nale Veneshev Sham. Le Midrash veut mettre, rendre, si vous voulez, compte des onshim qui sont marqués dans le passouk, des punitions, si on peut dire, point par point, on va dire. Le Midrash essaye, oui, de faire un vis-à-vis. Alors il dit comme ça, Zouche Omeret Nale Veneshev Sham, celui qui dit on va monter, s'installer là-bas. Efitsam Hachem. Ils ont été éparpillés. On pourrait comprendre que le Nale Veneshev, c'est-à-dire on veut se regrouper. Et en réponse, Hachem les éparpille. Efitsam Hachem. Zouche Omeret Nale Venase Milchama, la catégorie qui voulait faire la guerre. Nasu Kofim sont devenus des singes. Ruchot Veshedim, des esprits, des Shedim et des Lilim. Kofim, on comprend, des singes, ils sont déshumanisés. Rachidi Ruchot, ils n'ont plus qu'un esprit, mais plus de corps. Ils se sont fait exploser, si on peut le dire, oui. Ils ne sont plus qu'esprit, ils n'ont plus de corps. Shedim, c'est l'inverse. Ils ressemblent aux hommes, ils ont un corps, oui, comme les hommes, mais apparemment, c'est dans leur âme. Ce sont des démons, ce ne sont plus des hommes. Donc, une perte d'humanité, mais d'une autre manière. Lilim, ils ont un corps, mais ils ont aussi des ailes. Encore autre chose. Oui. Donc, en tout cas, ils se trouvent déformés. Hein. Ce sont des hommes déformés, difformes, qui ont perdu leur âme, ou leur corps, d'ailleurs. Oui, dans la bataille. Bon, c'est logique. Dans une bataille, oui, eh bien, on ressort éclopé, on va dire. La question qu'on aura, c'est qu'il n'y a rien de tout ça dans le pasouk. Ça, le pasouk ne dit pas. Il dit « Efitsam Hachem, Balal Lashonam », comme on va voir après, mais ce point-là, la guerre, tout ça, il n'y a point dans le pasouk. Bon. Vezou shomeret na leven avod avodat kochovim. C'est lui qui dit na leven avod avodat kochovim. Nous allons monter et faire avodat zara. Là, en vis-à-vis, c'est marqué qui sham balal Hachem sefat kol haaretz. Là-bas, Hachem a mélangé, détruit la langue de toute la terre. Le vis-à-vis de l'idolâtrie, c'est la destruction de la parole. Ça, c'est dans le pasouk, par contre. Mais le Midrash le met en vis-à-vis de l'idolâtrie. Bon. À comprendre, hein. Tania, Rabbi Nathan Omer, Kulam Leshem Avodat Korvim Nitkavnu. Une autre braïta, Rabbi Nathan dit Kulam Leshem Avodat Korvim Nitkavnu. On avait vu qu'il y avait trois catégories, et Rabbi Nathan, on n'est pas obligé de comprendre qu'il est Cholek, il veut dire mais ils ont quand même un dénominateur commun, c'est l'idolâtrie. La guerre, tout ce que vous voudrez, mais il y a un dénominateur commun. Oui, Leshem Avodat Korvim Nitkavnu, il y a une idée idolâtre dans ce qu'ils font. Ketivacha, alors pourquoi? Parce que c'est marqué Nase Lanu Shem. On va se faire un nom, hein, dans le pasouk. On va se faire un nom, ou un renom, si vous voulez. Oui. Ou Ktivata, mais un autre pasouk qui dit Veshem Elohim Acherim Lotaskiru. Les noms d'idoles, de dieux étrangers, Lotaskiru, vous ne mentionnerez pas. Comme si, oui, le mot Shem ici renvoyait à de l'idolâtrie. Bon, on peut se demander, parce que le Midrash, encore une fois, nous balance ça. Enfin, il y a d'autres endroits où on voit le mot Shem sans que ce soit idolâtre. On a bien voulu, oui, chercher ce pasouk-là pour dire Veshem Elohim Acherim Lo Tazkiru. Bon, dire Nasim Hashem, c'est idolâtre. Bon. Male Alan Avodat Korum, donc de la même manière que dans Shem Elohim Acherim, il s'agit bien d'idolâtrie, Afkan veut dire le Midrash Avodat Korum. Bon, Nasim Hashem, c'est idolâtre. Omar Rabbi Yochanan, autre point, donc vous voyez que le Midrash ramène plusieurs idées. Hein. Omar Rabbi Yochanan, toutes puisées du Pasouk. Omar Rabbi Yochanan, Migdal, la tour, alors ça aussi, ça sera un point intéressant. La tour en question, donc elle a disparu. mais pas complètement. Shalish Nisraf, un tiers de la tour a été brûlé, désintégré, ce que vous voudrez, oui, a été brûlé. Shalish Nivla, un tiers de la tour s'est enfoncé dans le sol par excès de poids, oui, comme la cathédrale de Strasbourg, oui. On n'a pas construit une deuxième tour parce que ça s'enfonçait dans le gravier. Oui. Bon, donc la tour était trop lourde, un tiers s'est enfoncé dans le sol.
La tour de Pise.
La tour de Pise, je ne sais pas si elle est enfoncée, elle penche, mais elle, bon, elle, oui. Voilà. En tout cas, là, il y a un tiers carrément qui s'est englouti dans le sol, un tiers englouti, un tiers désintégré, Veshalish Kayam, mais il y a quand même un tiers qui reste. Il y a un tiers qui reste. Bon, curieuse idée de ce midrash qui dit, bon, quelque chose reste de cette tour, vous voyez. Pas la tour telle qu'ils l'ont conçue, mais quelque chose. Le Maharal dira comme ça, oui. Le Maharal va dire ça, on verra donc au cours d'études, là on présente juste. Mais effectivement, le Maharal dit, oui, ben c'est les trois, on retrouve les trois groupes, donc il y a quelque chose qui reste là-dedans, tout ça. Omarabi Avir, Omarav Avir, Omarav, pardon. Avir Migdal Meshachéar. Alors, Avir Migdal, Rashi explique, c'est justement cet espace désintégré, la tour virtuelle, l'absence, ce qui manque de la tour, lorsque vous regardez cet espace-là, ou bien autre explication, lorsque vous êtes près de la tour, dans les environs immédiats de la tour, c'est-à-dire que vous la voyez, Meshachéar, alors cette vision-là ou cette proximité fait oublier le Limoud. Que vient faire le Limoud ici? Bon, on est à Bavel, il ne faut pas oublier que tout Talmud est Bavli. Alors, il dit Bavel, étudier là-bas, on oublie son Limoud, parce que Bavel, à cause de la tour, c'est un endroit où on oublie son Limoud. Et ils ont choisi l'endroit, ils sont justement là où il ne faut pas. C'est intéressant. Souvent, on voit ce genre de remarques dans le Talmud. Le Talmud, à un moment, dit il faut toujours parler certaines langues, surtout pas le farsi. Oui, le farsi, c'est un genre d'araméen. Quelqu'un demande c'est quelle langue le farsi? Ben, c'est la langue du Talmud Bavli. Ah bon, non, je croyais qu'il ne fallait pas parler cette langue. Bon, là aussi, il ne faut pas être à Babel parce qu'on oublie son limoud, sauf que c'est là que sont les juifs. Bien, ça c'est juste une parenthèse. Donc en tout cas, Avir Migdal Meshachéar, l'espace, l'environ de la Migdal, ou bien si vous voulez, si vous regardez l'endroit disparu de la tour, ouais, vous oubliez votre limoud. Il y a un oubli qui se fait face à ce point-là, c'est un genre de trou noir, si vous voulez. Quand vous êtes près de cet endroit, de ce projet, de la trace de ce projet, vous engloutissez votre limoud. Avir Migdal Meshachéar, un peu bizarre comme notion. Donc l'espace, l'environ, si vous regardez cet endroit-là, vous oubliez. Omar Rav Yosef, Bavel ou Boursif, Simanra la Torah. C'est un petit peu la même idée. Bavel et Boursif, c'est deux régions voisines. Bavel et Boursif. Boursif, c'est une autre région à côté ou à l'intérieur même de Bavel. Simanra la Torah. C'est mauvais pour la Torah. On oublie sa Torah. Bon, l'expression Simanra est un petit peu bizarre, oui. Oui, on aurait pu dire Ra, Simanra. Oui, on oublie son limoud, oui. Maï Boursif, oui. Omar Abassi, Borchapi, on joue sur un mot ici. Borchapi, c'est un puits dont on aurait puisé toute l'eau. C'est un puits vidé de son eau. Donc Boursif, ça fait penser, c'est un puits ou une citerne d'eau. Puis Bor, c'est parfois une citerne, mais une citerne vidée. Quand vous êtes face à la tour de Bavel, vous êtes vidé de votre limoude. Voilà, donc ça c'était juste pour voir les différents, pour que vous puissiez saisir, voilà, l'ensemble de cette gemara. Donc il y a plusieurs étapes dans ce texte. Alors maintenant je vous propose, donc, c'était l'objet ici, c'est une étude à deux.
Tout est clair déjà? Enfin, tout n'est pas clair en tout cas. Est-ce que tout est bien pas clair, donc on puisse commencer à étudier, quoi?
Alors, on commence. Allez. Alors, Dor Aflaga, donc Elam Dor Rechlemabo, donc ils n'ont pas part au monde futur. Voilà. Maï Avoud, hein, la première difficulté, c'est la question elle-même. Hein. Maï Avoud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Maï Avoud, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Sous-entendu quoi?
Ouais. Sous-entendu quoi? Maï Avoud, ça veut dire, sous-entendu, eh ben, c'est pas évident. Au fond, oui. Est-ce qu'il y a vraiment faute? Il faut faire remarquer, en réalité, ce qu'on avait vu un petit peu auparavant, c'est qu'il y a d'autres catégories dans la Mishnah. Hein. On parle de Dor Hamaboul, de Sdom, Anche Sdom, Enem Rechlomabo. Et là-bas, on ne demande pas Maï Avoud. La Gemara ne demande pas ailleurs Maï Avoud. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Anche Sdom, c'est évident, il n'y a qu'à lire le Passouk. Oui. On voit qu'il y a un problème. Dora Maboul, on voit que Ishrit Kolbasaret Darko, c'est clair. Oui. Ici, je pense que l'Agmara demande Mayavoud, parce que c'est pas si évident que cela. Oui. Ça n'est pas évident.
C'est d'autant qu'en fait, le verset n'a fait pratiquement que l'éloge, si ce n'est en filigrane, comme on voit plus tard, de Shem, que Shem rappelle peut-être l'idée de Avodah Zarah, mais sans ces messages en filigrane qui sont vraiment presque du subliminal. A priori, il y a que des choses bien.
A priori, oui.
Donc ça veut dire que la justification de Mayavoud, sous-entendu, on ne comprend pas ce qui se passe.
On ne comprend pas ce qui se passe. On ne dit rien de mal. Oui, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. On ne voit pas. Alors les Midrashim noircissent, évidemment, mais on ne voit rien de mal. C'est un peu comme quand on dit que Esav, il avait fait. Aïef fait tout ça en charge, oui, mais le texte n'a rien dit. Il est fatigué, c'est tout. Et là, c'est encore mieux. C'est même pas. Il n'y a rien. Ils font une tour, ils veulent se faire un nom, ils veulent se réunir. On n'a pas du tout dit que c'est totalitaire ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des lectures que le Midrash va suggérer. Dans le passage, il n'y a rien. Il y a quand même quelque chose, puisqu'Hachem visiblement n'est pas content, oui, mais on se demande de quoi il n'est pas content, c'est ça la question. Hachem est visiblement pas content, mais de quoi on ne sait pas.
Qui plus est, Ren Amechad. Il dit il y a un peuple qui est réuni, et c'est la première fois dans l'histoire qu'on arrive à une situation de paix. Ça commence mal avec Caïn et Havel, on peut dire. Mm-hmm. Ça commence très mal avec le déluge aussi. C'est-à-dire qu'a priori, les seuls, comment dire, essais d'humanité qu'on a pu observer, ce sont des humanités qui sont basées sur la guerre. Donc pour une fois, en fait, qu'on a un peuple qui marche bien, on n'arrive même pas à comprendre. Oui, ça veut dire, a priori, donc ce serait une question avec un énorme point d'interrogation. Mais Mayavoud, mais qu'est-ce que tu leur veux? Comme ça.
Comme ça, un peu comment veux... Oui, c'est ça. Mayavoud, qu'est-ce que tu leur veux? Et on voit, les Farchim disent justement, le fait qu'ils étaient en paix, ça leur a valu justement de ne pas être détruits comme le Dora Maboul ou Sdom. Sdom, ils sont morts. Dans leur mot, ils sont morts. Eux, on les a répartis. On les a éparpillés. Mais Hachem ne les a pas tués parce que, justement, ils étaient en paix. Ils avaient quand même ça pour eux, d'être en paix entre eux. Donc, il y a un côté positif. Ils sont en paix, ça va. Il va y avoir du rachamim sur eux, bien qu'Hachem, quelque part, ne soit pas content de ce qu'ils font. Il faudra comprendre. Mais ça ne va pas aussi loin que Dor HaMaboul ou Anchesdom. D'où la question. Tu me dis, Enem Chelklomaboul. Quand même, ils n'ont pas Chelklomaboul. Alors, pourquoi? Apparemment... Ils ont droit à du rachamim, puisqu'on ne les tue pas. Oui. Omri de Berabishila. Donc, Nivne Migdal, Venale le Rokia, Venake Oto, Bekardomot. Alors, totalement étrange, oui. Ils veulent percer le ciel, comme dit, se protéger d'un déluge. Oui. Là, la technique, ce serait de percer le ciel pour que l'eau fuit. Ça évite de tout se prendre, toute la citerne en une seule fois. Hein, Rachid dit sur le Chumash, un peu comme ça, ils ont fait une tour pour soutenir le ciel. Même idée. Éviter de se prendre un maboul. Alors,
mais question, c'est-à-dire, c'est assez gratuit comme
oui.
C'est lancé par qui ça?
Oui.
Tané de Berabi Yanaï, c'est-à-dire, qui permet, on va dire, à ce maître, de Berabi Shila, d'avancer une proposition qui, par ailleurs, paraît totalement saugrenue, paraît tout à fait délicate. Donc. Il y a un contrôleur de vocable. Donc, apparemment, secondé. Et ça veut dire que si vraiment le verset ne dit rien, alors pourquoi on prend comme ça, donc le même exemple pour Esav, on va attaquer au bistouri,
oui,
tous les secrets. Qu'est-ce qu'on leur veut finalement? C'est-à-dire, est-ce que le Maï Avoud, c'est une question ou bien une protestation? Parce que Mayavoud ne pourrait pas être vu clairement même pour une protestation, c'est-à-dire que finalement, puisqu'il n'y a rien marqué, si ce n'est des Onshim qui n'ont pas un système de punition, oui, qui a l'air relativement soft, on va dire, bon, il y a une sorte de dispersion des personnes, il y a une sorte de perte de leur mode de communication par les langues, mais nulle part on parle de Olam Haba, ouais, et d'un coup, donc de façon très brutale, la Mishnah s'est permise de mettre ces gens de la Dora Flaga dans le même paquet que Sodome, que dans la boule. Ça veut dire que, est-ce que l'interrogation de la Gemara n'est pas de dire la Mishnah elle est un peu trop forte?
Il y a de ça.
Protestation.
Dans le Mayavoud, il y a de ça. Et malgré tout, on répond. On va chercher à la question, c'est, d'accord, tu veux dire quelque chose, tu veux dire que quand même, Il y a une protestation, mais quand même on répond, Omar de Bereshit, Rabbi Shila, on nous cherche quelque chose. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on nous cherche, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement. Oui, il y a un genre de protestation, mais on donne une réponse. On voit bien, on est obligé, comme si la Gemara était obligée de trouver ce que la Mishnah n'a pas dit. Alors, on a oublié de préciser une chose, c'est que la Mishnah a quand même argumenté dans le pasouk, enfin argumenté, elle a amené une allusion dans le pasouk. Pourquoi est-ce qu'elle aime Chayot Kamabo? Parce que c'est marqué deux fois, hein, voilà. C'est marqué deux fois, Veifis Hachem Osom, je vous le lis juste dans le texte, c'est marqué une première fois, Veifis Hachem Osom, Misham, alors c'est marqué, Hachem a éparpillé les gens de Dora Flaga de là-bas, Alpené Kolaretz.
C'est le verset numéro 8.
Voilà.
Vous avez le verset numéro 8, Ret ici. Donc...
Voilà. Et c'est marqué ensuite, Ou Misham et Fitsam. Oui. Alors Rashi, enfin la Gemara explique, Vaifet Sosom, Beolom Azé, Hachem les a répartis, c'est marqué une première fois Vaifet Sosom, donc c'est marqué dans ce monde-ci, donc répartis à la surface de la terre, ou Misham et Fitsam, et de là-bas, ça c'est marqué plus loin quand on veut donner le nom, pourquoi Babel s'appelle Babel,
parce ça, que c'est Sham, numéro 9.
Bilel Hachem, oui,
c'est pas numéro 9. 9. On est de 8 à 9 en fait, on navigue entre 8 et 9.
Voilà.
Vaifet Hachem Otam, premier volet, et deuxième volet, donc la suite.
Voilà. Et là-bas, c'est marqué « Misham et Fitsam », c'est répété en fait. Il y a une redondance, et le « Misham et Fitsam » n'explique pas pourquoi Babel s'appelle Babel, puisqu'il suffit de dire « Kisham Balal le Shonam ».« Misham et Fitsam », ça n'explique pas. Donc c'est une redondance. Pourquoi c'est marqué deux fois? Alors il dit, alors la Gemara, la Mishnah comprend que effectivement il y a deux « nifout », si on peut dire, deux éparpillements. Un éparpillement bon, à la surface de la terre, « Beolom Hazé », et on les a aussi chassés du « Olam Habo ».
Alors, chasser ou éparpillé? Après, ils n'ont pas joué.
Oui, éparpillé, c'est-à-dire, c'est marqué Misham. Alors, j'ai pensé comme ça, le Misham, souvent on trouve ce Sham, à propos de Tikover Sham pour Myriam ou bien pour Moshe Baron, avec Tikover Sham, on les a enterrés là-bas. Toujours Sham accompagne l'idée d'enterrement, comme si on les enterrait là-bas. Pourquoi là-bas? Ici? Pourquoi là-bas? Oui. Donc là-bas, ça, j'ai l'impression que ça fait allusion à Triat Amissim ou à l'homme Abo. On les a enterrés et ils ont fait l'homme Abo. Et eux, Misham et Fitsam, on les a balayés, si on peut dire, comme on balayait les poussières, oui, on les a balayés de là-bas, du Sham. Mais ils n'ont pas part au Sham.
Ma question, c'est quelle est la nécessité du balayage? Il fallait les enlever. C'est le coup, Misham.
C'est le coup. Peut-être on a voulu reprendre le même terme de Veyafet, ça veut dire.
Mais pourquoi?
C'est cet éparpillement même, oui, c'est leur éparpillement, le fait qu'ils n'ont pas de part au Echad d'Hachem, on va dire. Peut-être qu'on va dire. Il y a la problématique du Echad, oui. Ils n'ont pas, ils ne sont plus dans l'ordre du Echad, oui. Ils n'ont plus part au Echad ni sur terre. Ça pourrait encore être fécond, oui. Mais pas non plus dans le Olam Habo. Ils n'ont pas de part à l'unité d'Hachem, oui. Peut-être le Midrash comprend, donc ça veut dire ils n'ont plus de part, ils sont disloqués, ils n'ont plus d'intériorité, ils n'ont plus de un, plus d'intériorité, plus de un, ils sont en morceaux dans l'intérieur. Être en morceaux à l'extérieur. Ça peut être fécond, mettre en morceaux à l'intérieur, ça l'est moins. Peut-être, on pourrait tenter de lire la Mishnah. On revient à la question, Maya Voud, mais pourquoi sont-ils en morceaux?
Alors, donc la réponse de la Mishnah, ce serait donc, si je comprends bien, qu'ils ont voulu alors monter une tour pour enlever la possibilité à Dieu de réitérer l'expérience du Maboul, expérience, soit dit en passant, qui avait été promise de ne pas être répétée. Donc Hachem avait juré même, oui. Il y a une promesse de Dieu de ne pas réitérer les eaux du Maboul. Et là, donc la réponse à cette question, finalement, qu'est-ce que tu veux de cette population? La réponse, c'est, et qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave? C'est qu'ils ont, donc quelque part, pas fait confiance à cette promesse. Et ils vont aller à rebours du scénario qu'ils imaginent que Hachem ne va pas s'empêcher d'envoyer un Maboul. Donc pour éviter ce prochain Maboul, ce prochain déluge, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans le ciel et on enlève toutes les sources de punition que Hachem a avec de l'eau. Oui.
Déjà, Emochelet et Lamaba, je pense que c'est la plus sévère. Alors, est-ce que tout ce qui a été dit après, c'est-à-dire qu'il a dispersé, est-ce qu'il a mélangé les langues, est-ce que ça rentrerait dans le cadre d'une punition Alors peut-être dans le cadre d'un réagencement de Dieu du système, un petit peu pour ça, parce que normalement, il ne peut pas cumuler les punitions, je veux dire. Et déjà, Enochelet de la Mabba, c'est le top, quoi.
Simé Bederabaminé.
Oui, voilà, on ne peut pas aller chercher plus loin, je veux dire. Alors est-ce que les autres, ce sont vraiment des punitions, ou alors c'est Dieu qui a institué ça pour, entre guillemets, l'avdine, pour réagencer un petit peu le système, et puis pour remettre un peu de l'ordre. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça exactement, mais... Il y a
Kimé des Rabbaniers, en principe, c'est donc... Kimé des Rabbaniers, c'est dans la méthode Bedin, c'est le Bedin qui fait comme ça, et c'est dans les peines d'en bas.
C'est pas mal, quoi.
Oui, mais ça peut prolonger une destruction physique. Ça veut dire que Kimé des Rabbaniers, c'est dans les peines physiques. Oui. Ah. On n'applique qu'une seule peine, mais il peut y avoir une peine de mort prolongée d'un Enoch et le Mabo. C'est-à-dire, les gens de Sdom, ils ne méritent pas de vivre, ni dans son ci, ni dans le Mabo. Oui. C'est un autre registre.
Ou bien.
Il
n'y
a pas Kimé des Rabbaniers là-dessus, hein.
Ou bien, donc effectivement, il n'y a pas Kimé des Rabbaniers, mais c'était l'esprit de Kimé des Rabbaniers, ou bien on ne parle pas des mêmes personnes. D'où ce que la Gemara va prétendre après, qu'il existe trois types de parties. Ouais. Donc il y a ceux qui avaient tel et tel projet, et donc des projets à géométrie variable qui vont récupérer des punitions à géométrie variable, et ce qui voudrait dire peut-être que l'imprès que l'on a ne concerne peut-être pas les trois catégories.
On verra.
À voir.
C'est marqué d'or quand même. Hein. C'est marqué d'or.
D'or à flagrant.
C'est marqué d'or. Voilà. Alors, ce qu'on sait, alors, effectivement, ce qui est intéressant comme remarque, c'est que là, il y a une faute. Oui, une première faute, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Je pense que ça a été développé la semaine dernière, hein, cette idée-là. Effectivement, ils ne font pas confiance à la parole d'Hachem. Hein. Il y a une promesse d'Hachem de ne pas réenvoyer un Maboul. Et eux continuent tranquillement à vouloir se protéger d'un Maboul dont on leur a promis qu'il n'aurait pas lieu. Oui. Donc, effectivement, ils n'ont pas de lien à la parole d'Hachem. À part ça, l'hypothèse est quand même un petit peu étonnante. Donc, on a l'impression que le Midrash veut traduire, c'est-à-dire qu'ils font une tour. La première lecture, c'est qu'ils font une tour pour monter au ciel. Donc, le Midrash imagine, c'est pas. On n'a pas une tradition qu'ils ont pris des marteaux pour, Rashi. On va simplement dire, mais ils font une tour pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le ciel? Ils veulent atteindre les nuages. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, c'est une manière de dire la chose. Mais on a l'impression qu'ils cherchent. Ça va être l'enjeu par rapport au Mechakuala. Oui, la suite, il dit, ils ne voulaient pas monter dans le ciel. Cette première hypothèse, ils font une tour. Pourquoi faire une tour? C'est quoi l'enjeu de dresser une tour Eiffel? Vous voulez monter dans les nuages?
Pas une tour. Le verset dit, Rosho Magia Shamaim.
Rosho Magia Shamaim, oui, voilà, d'accord.
Dont la tête va atteindre.
Voilà, le pasouk dit, voilà, une tour avec la tête. Donc quoi, ils veulent atteindre les nuages. Donc d'où l'idée des marteaux, c'est juste une manière de dire, ils veulent monter dans les nuages, ils veulent trafiquer quelque chose dans les nuages. Comme on avait dit tout à l'heure, certains disent qu'ils voulaient faire tomber la pluie, faire pleuvoir, comme on fait maintenant. Ils voulaient envoyer de la poussière pour faire tomber la pluie. C'est un peu des techniques de pluie artificielle, d'ailleurs. Un peu amusant comme idée du d'Agmara. Enfin, ils ont une idée qui est une intuition juste, donc ils veulent faire pleuvoir. Ou bien faire tomber l'eau, peu importe à la limite. Mais ils veulent trafiquer dans le ciel.
Excusez-moi, mais si je rentre dans la logique, logique qui est, a priori, donc déjà, enfin, la première impression, c'est que ce sont des croyants ou des gens non-croyants?
Ce sont des gens non-croyants, on a l'impression. Croyants, non-croyants, oui.
Moi, je dirais croyants.
Oui, on peut le dire comme ça aussi.
C'est-à-dire... Croyants. Bah, on se réfère à une promesse non respectée de Dieu, c'est qu'il existe.
Oui, on peut le comme ça. Ouais.
Et si on vient, qui plus est, briser le firmament à petites gouttes, c'est une façon de dégoupiller les grenades que Hachem s'apprête à envoyer. Sous-entendu, il y a une réalité de Dieu. Ouais.
Oui.
Qui ne va pas respecter sa promesse, ouais, et donc il va envoyer ma boule, et donc on va le dégoupiller. Mais a priori, c'est complètement absurde comme système. Si tu pars du principe que Dieu existe, alors si c'est pas de l'eau, alors il va ou re-remplir le réservoir ou bien envoyer de la foudre. C'est-à-dire qu'on est dans un système complètement absurde là. Ouais, de soit je crois en Dieu, et soit je crois pas en Dieu, alors c'est très simple. Mm-hmm. Mais là, on y croit à moitié, on y croit suffisamment pour. Alors, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Ils n'ont pas à faire un.
Oui. Mais question, ils y croient ou ils y croient pas?
Non, les juifs, on va oublier les juifs pour le moment. On n'est pas.
Abusé.
Non, mais quel est leur Dieu? La question qui est posée, c'est quel est leur Dieu? On a l'impression que c'est une espèce de machine, il faut maîtriser, c'est le barrage de Fréjus, il faut éviter que ça tombe dessus. Alors, il y a bien quelque chose, effectivement, ils sont croyants, si on veut, ils ont bien quelque chose au-dessus de la tête, Hein, un peu comme les Gaulois, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et au fond, ils ont quoi? Donc il y a une espèce d'absurdité. C'est-à-dire, ils ont bien peut-être un dieu, oui, mais ils ont un lien de, ils n'ont aucun lien avec lui. Ils ont un rapport de méfiance à la chose.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, la parole de Dieu est niée. On ne croit pas à la parole de Dieu. A priori, en revanche, le mécanisme de Dieu, ce que fait Dieu, la dimension factuelle, interventionniste de Dieu, on y croit. C'est que quelque part, il me semble ici qu'ils ont très bien compris comment fonctionnait Dieu, et ils ont limité Dieu dans sa fonction. Et a priori, il jouera le jeu. Ça veut dire que s'ils sont capables d'aller dégoupiller les réservoirs d'eau qui devraient servir de déluge, sous-entendu, ce sont les seuls, a priori, ce sont les seules possibilités d'action de Dieu. Mais comment placer ça comme hypothèse, si c'était de dire qu'a priori, Hachem a créé un monde dans lequel il joue le jeu du libre-arbitre. C'est de la même façon qu'ils ont leur propre idée, je propose donc une solution, de la même façon qu'eux ont cette même idée, cette outrecuidance d'aller à rebours de Dieu, c'est que Hachem laisse le principe du libre-arbitre. Les hommes ne sont pas des marionnettes. Et si on laisse jusqu'au bout, alors il va fonctionner de la sorte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si Hachem, je pars du principe, ces personnes partent du principe que Hachem va jouer le jeu au niveau de ce qu'il envoie en termes de punition, eh ben, on ne croit pas qu'Hachem serait capable de jouer le jeu au niveau de ce qu'il a promis. Sous-entendu, il y a une négation de la parole de Dieu et une peur de la, comment dire, de la fonction de Dieu. Ouais, donc c'est un petit peu cette double dimension qui est en jeu ici. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, on ne croit pas en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu. En revanche, on a une prise de conscience qu'il y a des règles de fonctionnement auxquelles Hachem serait presque soumis, et il va falloir jouer avec ça.
Peut-être que ici, ça pourrait être une lecture, oui, mais j'ai l'impression que effectivement, ce n'est pas tout à fait le même midrash que celui qui dit on va faire pleuvoir. Ça, celui qui dit on va faire pleuvoir part peut-être dans cette direction-là. On veut maîtriser les éléments de la nature, mais celui qui dit on veut s'éviter un déluge, oui. Donc il y a ici un problème de Onesh. On veut se protéger de Onesh. Il y a un Rosh Hashem. On veut avoir un pied dans le ciel. Ça peut ouvrir sur d'autres perspectives, effectivement. Sur effectivement, comme on va le voir d'ailleurs après, on a déjà un peu une perspective du combat avec Hachem ou d'une maîtrise, mais pas forcément scientifique. Peut-être ça fonctionne un peu comme Bilham. Hein, Bilham aussi, il essaye de maîtriser la colère d'Hachem. Donc il y a un fonctionnement d'Hachem. Il n'y a pas de parole, effectivement, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de parole, mais il y a un fonctionnement. C'est un machin, quoi. Hachem, c'est un machin. Il y a quelque chose dans le monde, il faut essayer de le maîtriser. Quelque chose qui est invisible, qui n'est pas dans du scientifique. Quelque chose qui punit, oui, qui peut nous tomber sur la tête, et il faut essayer de s'en prémunir.
Et c'est vraiment, voilà, une punition. Là, vous n'êtes pas dans un mode de punition, dans un barrage. Il y a une force de la nature qu'il faut maîtriser. Donc, Kifchoua, Hachem a laissé la place à l'homme de pouvoir maîtriser la nature. Donc, c'est intégré dans le projet divin. En revanche, là, on est vraiment dans une perspective d'éthique. Ouais, il y a des personnes qui se tiennent mal, savent très bien qu'on aura, de façon machinale, de façon programmée par Hachem, des punitions, mais. En revanche, ce qui est promis par Hachem n'a aucune place.
Alors, ce qui est difficile, c'est le pasouk. C'est peut-être le Rosh Magia Hachem. C'est-à-dire, comment le Midrash est allé chercher ça? Où est-ce qu'il est allé chercher ça dans le pasouk? Oui. Il n'y a pas grand-chose dans le pasouk. C'est bien ça le Mayavoud. C'est qu'ils ont fait une tour, le Rosh Magia Hachem, ils ont une tour qui va jusqu'au ciel. Alors, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils veulent monter dans le ciel, ils veulent. Alors, c'est pas marqué la guerre, donc ces midrash ne parlent pas de guerre, oui, mais ils veulent trafiquer littéralement, ils veulent bricoler des marteaux, ils veulent bricoler quelque chose dans le ciel, mais on est dans l'ordre, et ce serait ça la faute aussi, hein. C'est ça le Edlamachlomabo, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on a affaire à un monde, on ne s'adresse pas à Hachem, on bricole. On bricole, on manipule Hachem, on essaye de le vider littéralement, on va dire, lui ou ses arbres, on le vide, donc voilà, c'est de la manipulation, il y a une espèce de machin, il faut essayer de le maîtriser pour éviter que le ciel ne tombe sur la tête. C'est un rapport de croyants et de pas croyants, si vous voulez, c'est un ils ont devant eux un ciel vide. Ils ont un ciel vide.
Ils avaient peut-être comme projet de se lâcher
un peu. Ça c'est juste, oui. Il y a un arrière-plan qui voulait être tranquille.
Il y a un arrière-plan qui voulait être tranquille, mais quelque part,
voilà.
Mais si tu achètes un anti-radar, c'est peut-être la vitesse, quoi. Je veux dire, c'est.
Voilà. Mais, c'est un peu ça, voilà. Simplement, le Midrash répond à Maya Voud, voilà, on va dire comme ça. Le Midrash répond directement à la question pourquoi ils n'ont pas l'homme à bord et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça. Le Midrash aurait pu dire qu'ils avaient Et Sara'a, Rachid dit d'ailleurs ça, ils avaient Et Sara'a, oui. Le Midrash dit non, ils veulent faire des trous dans le ciel. On a l'impression que toute la faute est là. Évidemment, en arrière-plan, il y a d'autres choses. En arrière-plan, il y a sûrement d'autres choses. Mais toute la faute est là, ils ont un ciel vide. Ils ont un ciel vide, oui. Certes, il y a une espèce de machin, oui, qui est dangereux, oui. Et il faut essayer de le vider, oui, mais ils ont un ciel vide de parole. Ils n'ont pas un dieu de parole devant eux. Ils ont un truc qui leur envoie un déluge de temps en temps. Voilà, il y a un truc, ça fonctionne, et on essaye de détériorer le fonctionnement du truc qui dérange. Voilà. Donc leur faute est déjà de n'avoir plus rien dans le ciel, de n'avoir plus d'interlocuteur. Il n'y a que les hommes sur terre, oui. Et il n'y a rien d'autre. Au fond, il n'y a pas de ciel. Peut-être que ça serait la meilleure manière de dire « Verosho Bagiabal Sharim », c'est-à-dire au fond, ils ont une tour qui va jusqu'au ciel. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas de discontinuité entre la terre et le ciel. On passe de la terre au ciel sans discontinuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciel.
Mais où est-ce qu'ils ont loupé l'épisode de la parole ? Où est-ce qu'ils n'ont pas pu établir le contact ? En fait, j'ai l'impression de... Moi, je serais à la place de la génération qui a pris un déluge comme ça, qui a détruit l'humanité. J'aurais du mal ensuite à retrouver l'usage de la parole pour m'adresser à la chaîne. Ça faisait un peu grand.
Oui, je comprends.
Vide, etc. Ils ne trouvent pas à qui vont s'adresser. Je veux dire, ils ont subi un traumatisme majeur. Enfin, je veux dire, ou alors ils ont des répercussions d'un traumatisme majeur qui a détruit l'humanité. Et après, comment on peut se relever ? Enfin, on sait que quand les gens ont subi un traumatisme comme ça, souvent, ils perdent l'usage de la parole. C'est très difficile de dire... Il n'y a plus de langage, comme ça, de communication. C'est pratiquement... Je veux dire, c'est pratiquement normal qu'ils se disent qu'il y a quelque chose comme ça qui... Qu'ils aient réduit Dieu à cette... Qu'ils aient réduit, je veux dire... Voilà. Cette dimension providentielle son extrême
faculté. Oui, je comprends. Mais ce qui est décrit... C'est que quand même on parle, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ils ont récupéré, cicatrisé leur maboule, mais là où on commence, on dit « Vaya kolador safa achat » Ils ont récupéré une langue qui, d'après Rachid Hashanah Kodesh, donc ils parlent. Ils ont une parole, mais ils vont l'abîmer, leur parole. Ils ont récupéré une parole. Comment, je ne sais pas, on va dire, mais entre-temps, ils ont récupéré une parole, mais ils sont en train de l'abîmer parce qu'ils n'ont pas de ciel. C'est ce que veut proposer la Gemara. Ils n'ont pas de ciel. « Roshom agavashom » Il n'y a plus de ciel, c'est-à-dire il n'y a plus un ciel distinct de la terre, on passe de la terre au ciel. Oui. Donc il n'y a pas de ciel, très bien. Et la dégradation de la parole se fait là, en live, si on peut dire. Oui. Au moment où ils finissent par ne plus avoir de ciel, oui, eh ben, ils vont ne plus avoir de parole. Hachem Balal et Leshonam, ils ont une parole, mais ils sont en train de la perdre. Comment ils l'ont récupéré après le Maboul ? C'est-à-dire le Maboul n'est pas un tel traumatisme qui n'est pas récupéré de parole, tel que le décrit le Pasouk. Ils ont récupéré une parole. Mais ils ont quand même le souvenir du Maboul. Ils ont plutôt la rage que le traumatisme. Ils ont la rage du Maboul. Ça les dérange, le Maboul. La rage de l'occupant d'en haut, oui, enfin du machin d'en haut, oui, qui les dérange. Et ça, ils veulent le dégager, entre guillemets. Ils veulent le dégager. C'est pas par traumatisme. C'est y a un combat. Il y a bien l'idée après qui va apparaître de Milchama. C'est pas tout à fait ça qui est marqué, mais quand même, ils ont la rage de de se débarrasser du ciel. Quoi. Autrement dit, on a fait des escaliers de la terre jusqu'au ciel. Je pense que l'idée, c'est que donc, il n'y a pas de ciel. On peut aller dans le ciel. Le Midrash traduit de manière imagée, on va aller avec des marteaux manipuler, trafiquer le ciel. C'est-à-dire, le ciel ou la terre, c'est pareil, ça se trafique, on plante des clous dans les murs, pourquoi pas dans le ciel? Et donc, il n'y a plus de ciel.
Rabouché veut proposer un élément de réponse dans le même ordre d'idée, c'est que c'est justement peut-être la promesse de Dieu de ne plus amener le Maboul, qui était un petit peu la nouvelle régénérescence de la parole, qu'ils ont eux-mêmes refusé. C'est qu'il y a eu, si vous voulez, donc un essai de régénérescence qui va être clairement bloqué, stoppé. On va trouver un ersatz de la parole. C'est qu'on refuse par définition le principe de la parole. Ouais, donc il y a une véritable position à partir d'une safarad, d'une seule et même langue, donc d'une langue consensuelle, on va aller à rebours du langage. Donc c'est quelque chose qui est assez... Il y a assez permission, on va dire.
Jusqu'où ils se rendent compte de leur... La volonté de destruction de langue n'est peut-être pas première. Elle va se faire au décours. Oui. Ils ont un ciel vide, ils veulent maîtriser le ciel, maîtriser Hachem, peut-être au sens de Bilham, l'Avdavka au sens donc technologique, ça pourrait être, mais même au sens simplement de Bilham, il y a un machin qui fonctionne. C'est intéressant parce qu'on voit que Hachem, en réponse à Bilham, il a évité de se mettre en colère, oui. Seulement Bilham, je pense, Bilham, il savait très exactement qu'Hachem devait se mettre en colère à un certain moment. Et Hachem, il a joué Zidane, quoi. Il a passé le ballon, hop. Il se passe quelque chose de... Je pense qu'il y a ici aussi quelque chose. Ça veut dire, eux croient, comme on a voulu dire, qu'Hachem est prisonnier d'un certain jeu. Et avec Bilham, on voit qu'Hachem n'est pas prisonnier de ce jeu. Mais ça, c'est une notion délicate. Peut-être on passe au Mechaku.
Ouais, on va.
Hein? Alors ce Mechaku aller pose une question aussi, c'est que les gens se moquent. Bema Rava, ça les fait marrer, si on peut dire. Ça les fait marrer, cette hypothèse des marteaux pour faire fuir l'eau. Imken livno echad betura. L'air de dire, si vraiment ils voulaient monter au ciel, si l'idée c'est qu'ils veulent monter au ciel, ben, ils auraient dû la construire sur une montagne. Donc ils ne veulent pas monter au ciel. Ils ont construit dans une vallée, ils ont fait une tour, mais la tour, si vous voulez, elle est haute, mais elle s'adresse aux hommes qui sont en bas, au sol. Elle n'est pas faite pour monter. C'est pas fait pour monter au ciel. Donc il y a un ciel, on va dire, peut-être, ça veut dire, il y a un ciel, oui. Leur propos n'est pas de monter dans le ciel, oui. Ils ont un projet en bas.
C'est-à-dire, ce qui me surprend, c'est que la seule chose risible dans ce projet, c'est juste que techniquement, ça aurait été plus intelligent de la commencer sur l'Everest, comme vous dites, ouais, au lieu de la commencer sur une vallée. Mais ce qui n'est pas risible, ce que la Gemara ne dit pas être risible, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'apparemment, ce qui est risible, c'est que tu joues avec Hachem comme s'il il était incapable de. C'est-à-dire, il est capable d'envoyer de l'eau, donc on va le dégoupiller, on va enlever l'eau, donc du coup, il sera capable de rien faire. Mais ça, c'est aussi risible. Pourquoi la Gemara, pourquoi on pourrait pas dire que c'est ça enfin, non, c'est pas ça la question de la Gemara. En tout cas, si toutefois on rentre dans le registre de la moquerie, oui, alors pourquoi c'est pas comment dire le raisonnement interne qui a été pris en place. Là, on dirait que le raisonnement interne tout va bien, c'est-à-dire que oui, on peut admettre que la parole d'Hachem est remise en cause, par contre son fonctionnement n'est pas remis en cause, on va fonctionner avec ça. Et la seule chose qui nous gêne, c'est une sorte de petit détail. Bah, tu sais, si c'est comme ça, alors t'as qu'à directement... C'est absurde, quoi. T'as qu'à directement commencer sur l'Everest. C'est-à-dire que pourquoi, finalement, la Gemara n'aborde pas de façon beaucoup plus intrinsèque le problème.
Alors, souvent, quand c'est un détour de la Gemara, j'ai l'impression, Mechaku aller, c'est-à-dire, ils se moquent, mais c'est même à dire, vous les prenez pour des naïfs, c'est-à-dire, la problématique que vous leur prêtez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ciel, en tout cas, qu'on peut passer de la terre au ciel... C'est un peu trop naïf. C'est la moquerie, c'est-à-dire ceux qui se moquent de Rabbi Shila qui a émis cette hypothèse, c'est peut-être pour dire, mais vous les prenez trop pour des naïfs, c'est-à-dire votre hypothèse elle-même est naïve. Peut-être.
Donc, de donner plus, quelque chose de plus profond à leur
révolte. Essayer d'aller plus loin, oui. Essayer d'aller plus loin.
Et donc la suite serait une sorte de nouvelle explication.
Oui.
Qui serait en divergence d'opinion par rapport à celle qu'on vient de voir.
Oui.
Donc le projet, donc ce qu'on vient, la raison, qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave, C'est pas quelque chose d'aussi enfantin, mais quelque chose de plus grave.
Oui, c'est plus grave, plus fin peut-être. Enfin, plus fin. On ne peut pas dire que ce qui était dit avant n'était pas fin, mais pour ceux qui se moquent, ils vont dire c'est trop naïf, ça reste encore naïf. Ils ont un ciel. Donc ce qu'il faudra comprendre, c'est que non, il y a un ciel, il y a la terre, il y a un ciel, mais les hommes en bas vont devoir se débrouiller autrement.
Est-ce que vous voulez dire que ça veut dire que ça ne justifierait pas une perte du Olam Haba? Vous dites c'est trop important,
ça, je ne sais pas si c'est ça qu'on a voulu dire, mais on va dire c'est une problématique, c'est trop gros peut-être, c'est trop naïf, trop gros, oui. Dire qu'ils ont confondu à ce point le ciel et la terre, non. Oui. Ils ont un ciel, oui, mais ils vont essayer de s'en passer, c'est autre chose. Mais ils vont essayer de s'en passer, mais sachant qu'ils n'ont pas la maîtrise du ciel. C'est plus compliqué. Voilà. C'est pas un rapport de... Alors là-dedans, on pourrait aussi mettre l'idée technologique, c'est-à-dire, si c'était, par exemple, si c'était le pshat, c'était de dire que c'est une ambition technologique, c'est pas ça le problème. Ce que vous disiez avant, là, on pourrait dire que la faute n'est pas dans le scientifique. Vouloir avoir une maîtrise de la pluie, c'est pas encore un déni, c'est pas encore à cause de ça. Si c'était ce pshat-là. C'est-à-dire, ce qui est en jeu là, hein, oui, il y a autre chose en jeu, oui, on est plus dans l'ordre de l'en bas, les hommes veulent rester en bas, ils ne veulent pas monter en haut d'un tour, ils ont un ciel, mais ils veulent faire quelque chose en bas, ça concerne l'homme, c'est entre les hommes, on ne se bat pas, on ne veut pas monter dans le ciel, ils n'ont pas eu cette idée-là, ils savent qu'ils ne peuvent pas monter dans le ciel, ça ils savent, ouais. C'est ailleurs que ça se passe, autrement dit. Prêter aux hommes, ouais, la naïveté, disons, aux hommes de Raflaga, la naïveté d'avoir réduit Hachem, d'être aussi réducteur par rapport à Hachem, de réduire Hachem à un machin, non. Peut-être. Voilà. Peut-être ceux qui se moquent, oui, bien que les premiers ont quand même dit ce qu'ils ont dit et qu'il faut quand même en tenir compte. C'est pas parce que les autres se moquent, oui, que les premiers n'ont rien dit. Mais disons, l'air de dire, c'est autre chose quand même. C'est pas forcément hein, ça, ce qu'on venait de dire, à savoir qu'il n'y a plus de ciel, ou le ciel où Hachem est un machin. On voit bien que pour Bilam, c'est un peu comme ça quand même. Oui, et Bilam, par le Midrash dit, c'est Gadol chez mes philosophies. Oui, intéressant. Bon, bref. Ah, c'est un rapport de philosophie qui maîtriserait trop les choses. Oui.
Monsieur, la question. Il dit, pourtant, dans le Beth Amigdash, c'était pas étonnant de voir à la fois la pratique des korbanot, on avait des korbanot, et donc à l'intérieur du Beth Amigdash, et à l'extérieur, on faisait n'importe quoi. Donc, le fait de. Pardon ? Oui, ce hiatus, ce paroxysme, cette bizarrerie, d'être capable à la fois, d'avoir un acte de service de Dieu, et pourtant d'être complètement à l'extérieur. C'est-à-dire que de limiter finalement sa relation au ciel, à Hachem, à quelque chose de totalement machinal. C'est-à-dire que, ce qui veut dire, c'est que c'est pas tellement incroyable. C'est-à-dire que dire que Merhakou, c'est de dire c'est trop simple, c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça. Ils ont quand même dit quelque chose, ça existe. Alors, le Merhakou allait me dire, mais on peut quand même, peut-être Merhakou, c'est une manière, mais finalement, non. C'est quand même présenté d'une manière, c'est-à-dire, c'est Roshomagi à la Shomaïm. Peut-être qu'ils ont, on a voulu comprendre que réellement, oui, ils voulaient casser la distance entre le ciel et la terre, qu'il n'y a plus, on en a fini avec le ciel. Il n'y a pas de ciel, le ciel est vide, il y a bien un machin, oui, il faut essayer de le maîtriser. Ce dont parle Rav Moshe, c'est plutôt au sens figuré, mais là, il le prenait au sens littéral. Il voulait réellement vider le ciel. Agir d'une manière machinale ne veut peut-être pas encore dire qu'Hachem est un machin, oui. Mais ça veut dire qu'on n'y prête pas tellement attention. On fait son culte de manière machinale. Ça ressemble un peu à ça. Il y a le danger, mais ça reste au second degré. Ça reste au second degré. C'est du Doraflaga au second degré. On fait sa religion comme ça, on a la bracha, etc.
Tu veux dire, Mizotanjimilovela
au second degré.
Une routine de la
routine. Une routine, et puis ça marche comme ça. Il y a un petit côté comme ça, mais ça reste au second degré. Là, c'était au premier degré. Ils ont quand même, ils se sont mis toute une civilisation à faire une tour, à monter au ciel. Ils y sont allés vraiment. C'est un vrai faux projet, si on peut dire, mais enfin un projet quand même. Ça, là. Ça, l'Agmara ne dit pas que les Rishonim, c'est-à-dire les Doros HaKodmim, avaient une vision simple des choses. L'Agmara ne retient pas ça. Que la terre était plate, c'était au Moyen-Âge.
Je l'inverse.
Oui, c'était au Moyen-Âge, mais les Doros HaKodmim, même les Grecs, l'Agmara dit que les Grecs savaient que l'Agmara dit que les Grecs disaient que la terre était kadour, c'était un rond. Oui. Et les Doros HaKodmim, donc ça, je ne sais pas s'il faut leur prêter une naïveté dans ce sens-là. La naïveté serait, oui, de leur prêter, oui, d'avoir pensé se débarrasser d'Hachem par une tour. Oui. Pas comme ça. Ils pensaient se débarrasser d'Hachem, mais dans l'en bas, entre eux. Voilà ce qu'on va proposer après les Shlosha Kitot. On reste entre hommes, on reste en bas, on n'a rien à faire en haut, mais on peut très bien se débrouiller en bas pour se débarrasser d'Hachem. Oui.
En étant dans les cieux, le fils, est-ce que c'est pas l'adaptation
du monde par en bas? Oui, c'est ce qu'on va voir. Oui, c'est ce qu'on va voir. En restant en bas, oui, c'est ce qu'on va voir. C'est un aplatissement, mais formulé autrement. On va en fait reformuler.
Qui ne serait pas source de rire, de moquerie en tout cas. Ça paraît plus plausible. Il y a une question.
Alors, on y va. Omar Abir Miabar El Hazar, Nir le coup. Donc, et là, alors on va proposer justement une autre lecture. Il y a trois kitot, trois groupes.
Alors, est-ce que c'est juste trop... au niveau ouais. si on dit comme ça qu'on va proposer une autre lecture, donc il faut enlever le Ela.
Oui.
Oui, donc Ela ne va pas être une réponse, une question qui a été posée. Si on dit qu'ils sont montés là-haut pour faire couler petit à petit les réserves de Dieu pour amener de Hachem pour amener le Maboul, pour amener le déluge, alors ils avaient qu'à commencer la tour d'un piédestal beaucoup plus grand. Et ce qu'on va voir maintenant n'avait pas été une réponse. Ouais, une réponse à cette question. On vient abandonner la première thèse, et donc a priori, on propose une nouvelle thèse. Quelle, donc, Mayavoud, c'est la réponse à la première question initiale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tellement grave? Ouais, donc apparemment, on va avoir une réponse juste à titre de voilà. Précision.
Alors, trois kitotes. Alors, trois kitotes, la question aussi, c'est de savoir, ce ne sont pas forcément des groupes concurrents, oui. C'est trois, on pourrait dire, trois stratégies différentes, trois groupes. Mais trois groupes pour un même projet.
Qui
il y a trois groupes. Alors, qui a dit? Alors, c'est ça qu'il faut voir. Mais on peut le comprendre comme ça. Nir le coup, ils se sont partagés, mais peut-être pas au sens de Marc-Loquette. Nir le coup, il y avait trois groupes. Ouais. Trois manières de voir. Oui, c'est les nuances de la gauche ou de la droite, comme vous voudrez. Il y a les radicaux, le centre-gauche. Voilà. Il y avait trois groupes, mais pour une même finalité. Comme ça, je proposerai. Ça peut discuter, hein. Voilà. Homer, alors, un groupe dit « N'allez venez chef cham ». Alors, mystère, on veut monter et nous installer là-haut. Alors, dans le chat, on aurait l'impression que c'est pareil qu'avant. Alors, le Maharal propose, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres lectures, hein, le Maharal propose qu'en fait, ici, « N'allez venez chef cham » ne veut justement pas dire, comme avant, qu'ils veulent monter en haut de la tour, mais « N'allez » dans le sens « on va se faire une tour », c'est-à-dire « une grandeur, naalé, c'est-à-dire on va s'élever nous-mêmes à travers la tour qui est le symbole de cette élévation, venez chef cham et on va s'installer dans le monde dans une grandeur. Le Maharal propose cette lecture-là puisqu'on n'est pas dans l'idée d'avant qu'ils veulent monter en haut de la tour. Naalé, venez chef cham, c'est une autre, il faut comprendre le Midrash qui est d'une manière plus allusive, naalé, venez chef cham, c'est pas si facile que ça dans les mots. Allez, on va s'élever, on va monter, c'est-à-dire on va se grandir et s'installer au pied de la tour, en fait. Là-bas, au pied de la tour, dans cette grandeur. La tour est simplement l'image, c'est le mât du bateau, c'est l'image, ou l'étendard, c'est l'image de notre grandeur. On va se grandir par la tour, mais pas en montant dessus. On va se grandir par la tour, venez chef cham, et s'installer là, autour de cette tour, autour de cet étendard dressé. Voilà. On veut de la grandeur.
Il me semble qu'en fait le marcha reste plus comment dire moins imagé.
Oui.
Et il dit tout simplement donc dans la logique du déroulement de l'Agmara, qui est que la première des tentatives des erreurs, donc la première qui a été énoncée, c'était donc de dégoupiller les réserves de Dieu. La deuxième, c'est de dire non, il va y avoir le déluge, il est inéluctable, on ne peut pas enlever les réserves de Dieu. En revanche,
ah oui,
ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur des pilotis. Ce qui fait que même s'il y a de l'eau, des déluges, on pourra vaincre les pilotis. Voilà, sous-entendu, on ne va pas empêcher l'inéluctable, mais on va gérer l'inéluctable. Oui. Voilà. Donc de façon très simple, on va aller. Alors à ce moment-là, une tour qui arrive jusqu'aux cieux, pas besoin forcément. Il suffit qu'elle soit suffisamment grande pour dépasser au moins les Ararat, la fameuse tour qui a été presque, qui a quand même été immergée. Mais enfin, on va s'arranger à avoir une tour qui nous protège. Ouais, donc on va gérer la punition. On va pas éviter la punition. On va gérer la punition.
Ouais. Alors contre le marchand, je dirais juste, enfin, plaidant contre lui ou en creux, oui. On ne parle pas ici, d'abord on semble avoir renoncé à l'hypothèse d'avant, et on ne parle pas des eaux du Maboul. Le Marchaud veut expliquer, je comprends, parce que c'est difficile de comprendre ce que veut dire Nalé Vénéchef Chab. On a l'impression qu'effectivement on veut monter sur la tour et s'y installer. Pourquoi le Marchaud comble les vides, mais c'est toujours risqué de combler les vides. Il dit pour se mettre à l'abri d'un éventuel déluge, d'un tsunami. Pas sûr.
C'est quoi la question? C'est que finalement ça devient aussi ridicule que la première fois?
Non, simplement juste le Marchaud peut dire ce qu'il veut, mais dans les mots, on n'a plus évoqué le Maboul cette fois-ci. Donc, d'où peut-être le Maral me paraît, mais il y a toutes les lectures sont possibles. Le Maral, je l'entends mieux ici, bien que le Maral soit difficile aussi, puisqu'on a comme il n'a allé Vénéchafchar, on a l'impression qu'ils veulent monter en haut de la tour. Le Maral dit non, on veut monter symboliquement, au second degré, métaphoriquement par la tour, et les installer.
Mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'une tour pour monter symboliquement?
Non, ça oui, parce que la tour c'est un étendard, c'est une manière de dire, voilà, on a la tour Eiffel, on regarde vers le haut, on a la tête levée vers le haut. Au lieu de ramper, on a un projet vers le haut. Les deux, en fait, vous voyez qu'il y a une difficulté entre le Maral et le Marchaud. Ce sont deux pshatim très différents. Le Marchaud revient avec l'histoire du Maboul, mais autrement. Le Maral dit, on a oublié cette histoire de Maboul, c'est pas ça le problème. C'est un autre truc, c'est autre chose. Et le Maral, dans les trois, il va mettre la même problématique. Hein, c'est une problématique de Elyonim. Est-ce que les hommes peuvent tout seuls être dans le monde d'en haut, être des grands, en restant en bas, pas en montant dans le ciel? Ça, c'est la différence avec l'histoire d'avant. On ne monte pas dans le ciel, mais on n'a pas besoin de monter dans le ciel pour être grand. Voilà. Mais ça, c'est le Maral, effectivement. Le Marchaud ne part pas du tout dans cette direction. Alors, peut-être je propose qu'on suive un peu la problématique du Maral.
Avec plaisir de suivre le Maral, mais alors, c'est pas péjoratif, c'est majoratif.
Alors voilà, c'est ça qu'on va voir, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose. Le Maral le dit lui-même à un moment, c'est pas forcément une mauvaise chose. Où est le mal, encore une fois? Où est le mal à vouloir se grandir? On n'est pas obligé de voir ramper. Oui. En fait, le Maral va le dire lui-même.
C'est l'expression d'une ambition, en fait.
C'est une ambition.
Si je comprends bien,
c'est une ambition. Où est le mal? Où est le mal? Dans Néalé, Vénéchef, Cham, où est le mal? C'est pas évident. On y reviendra après dans l'histoire de la tour. Hein, si vous vous souvenez bien, il y a une partie de la tour qui reste intacte. Et le Maral va vouloir dire justement, il y a une partie qui tient la route. On n'est pas obligé de ramper. Que l'homme veuille une grandeur, qu'il ait une ambition, qu'il veuille se dresser, c'est bien. Le problème, c'est où ça devient mauvais. Oui. Où ça devient stalinien, si vous voulez. Oui. Où ça dérape. Voilà. Où ça dérape. Nalé Vénéchef Cham. Donc, vous voyez, ici, le Midrash lui-même, il n'est pas du tout Nalé Vénéchef Cham. Il n'y a rien de mal. Les deux autres hypothèses, oui, faire la guerre contre Hachem, faire l'idolâtrie, c'est marqué que c'est pas bien. Oui. Mais Nalé Vénéchef Cham, c'est un peu... On ne sait pas trop comment le prendre. C'est mal. Une autre catégorie dit on va faire Avodah Zarah. Alors c'est pareil, on se sert d'une tour, mais la tour ici c'est une espèce de gigantesque divinité ou quelque chose comme ça. On va faire une Avodah Zarah, c'est une on va traduire Avodah Zarah, c'est-à-dire la tour est notre gardienne, quoi. On n'a plus besoin de Dieu pour nous protéger ou nous donner ce dont on a besoin. On a notre tour, oui, qui est peut-être aussi l'expression de l'unité des hommes, comme ça plusieurs farchim disent, oui. Cette tour qui est l'expression de leur unité, c'est eux qui l'ont construite ensemble, donc elle est l'expression de leur propre puissance. C'est une idole, une idolâtrie, mais une idolâtrie peut-être de leur propre puissance, puisqu'ils révèrent la tour qu'ils ont construite. C'est leur propre puissance qui les protège, oui, ça fonctionne en boucle. Ils révèrent, c'est une idolâtrie d'eux-mêmes à la limite.
Est-ce que j'ai une petite question, un petit problème, c'est que vous développez donc en permanence l'erreur serait donc dans cette construction, et je voudrais juste faire remarquer que dans le premier élément de réponse, et qui est présent dans tous les autres éléments de réponse, c'est que le problème de cette tour, c'est pas la tour, mais c'est le fait qu'ils ont dit construisons une tour. Donc on dirait que tout se passe au niveau du projet et non pas de sa réalisation. Et pareil ici, trois groupes. Ouais, une din ale veneshel sham. Tout se passe au niveau de leur projet, de leur slogan.
Oui.
Ouais, ça veut dire que or là, ce que vous dites, c'est sa réalisation qui est problématique. J'ai l'impression que la Gemara vient attraper les choses beaucoup plus en amont.
Oui, c'est une manière de dire qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils construisent juste une tour pour se faire de l'ombre, mais ça veut dire, effectivement, c'est le projet, mais il y a la mise en œuvre. Ça veut dire ils font une tour, ils commencent, ils ont un projet, et ils mettent en œuvre un projet. C'est évidemment, c'est le projet, c'est ce qu'ils veulent qui pose problème. C'est pourquoi ils font cette tour.
Alors,
s'ils font cette tour, encore une fois, juste pour avoir un point de mire sur la mer, ben, tant mieux, hein. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est le pourquoi. Faire une tour à Dubaï, c'est pas encore la tour de Babel.
Mais...
Donc c'est bien le projet qui est en jeu, mais ils s'y mettent. Il y a le vrai problème, c'est que aussi ils l'ont construite.
Oui, mais tour. C'est pas marqué. C'est marqué dans le verset, mais c'est pas marqué dans la Gemara.
C'est marqué dans le verset quand même. Donc la Gemara n'ignore pas, oui. Non, il n'y aura pas. Donc ça veut dire que c'est Nal et Vénéchel. Il y a un projet. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout innocent cette tour, et c'est ça qui va leur retomber dessus. C'est-à-dire que ayant mis toutes leurs énergies dans cette tour, oui, donc ils ont investi dans un projet qui n'est pas du tout innocent, qui est alors ce que l'on veut dire ici, les trois types de projets, et c'est ce projet-là qui fait mal. Évidemment que c'est le projet qui fait mal, pas juste le travail de construction de la tour, mais c'est le projet, oui, c'est le projet qui prend du poids, oui, qui pèse lourd, oui, qui est mégatonique, si on peut dire, puisque ils ont fait une tour tellement lourde qu'elle s'est enfoncée dans le sol et qu'elle les a écrasées. Quoi. C'est vrai que c'est le projet qui est en jeu. Oui.
Ouais. On ne pourrait pas à nouveau se moquer d'eux là-dessus en disant, mais c'est dérisoire. Est-ce qu'ils croient que cette tour vraiment a une puissance?
Non, alors parce que peut-être ce dont on se moquait, c'était de l'intention qu'on leur prêtait de monter dans le ciel. Ça faisait un peu rikiki. Mais ils se disent non, ils ne veulent pas monter dans le ciel. Ils ont dressé une tour, mais eux vivent à terre. Alors là, on est dans une hypothèse plus humaine, on va dire, moins risible du point de vue des hommes. Non, risible.
C'est-à-dire de ne pas avoir pris, excusez-moi, ce que vous voulez dire, Moshe, de ne pas avoir pris au sens littéral Verosho Bashamayim. On se moque d'avoir pris le verset dans cette vision babylonienne au sens littéral.
Au sens littéral, et de leur avoir fait prendre à eux,
le jusqu'au bout, il y a quelque chose qui est.
Qu'il y ait faute ou risibilité à un autre niveau, c'est juste.
Ouais, on n'a pas respecté l'image du verset, en fait. Voilà. On a pris trop au sens littéral.
Voilà. Et ici, donc, on reste ce qui est plus posé, on va dire, oui, c'est que ces hommes ne sont pas à ce point-là marionnettisés, qui veulent monter en haut de la tour et vivre dans les nuages. Non, ils vivent à terre. Le reste pose problème, évidemment. Le reste pourrait dire dérisoire, ou peut-être pas tellement dérisoire, puisqu'on voit qu'il y a des tas de projets de Reich pour Milan d'Empire soviétique, oui, qui s'inspirent un peu de ça, où il y avait un petit peu de cette grandeur-là, oui, l'aspect grandeur, oui. On voit que ça revient régulièrement sur le tapis, que les hommes essayent de se construire en bas, oui, une grandeur. Oui. Simplement, ça prend des visages divers et variés, oui, mais on voit que ça revient souvent sur le tapis. Alors on peut s'en moquer, le texte ne se moque pas tellement de ça, parce que malheureusement ça revient souvent. Ce dont on se moquait, c'est qu'on ne les voit pas souvent monter dans le ciel. Ça, non, monter dans le ciel, on ne les voit pas, les hommes. Oui. Ils font leur chose en bas. Voilà. L'hypothèse est plus sérieuse dans ce sens-là. Plus sérieuse, on est dans l'en bas. Oui. C'est un gentil petit empire stalinien, comme on en a vu quelques-uns, ça ou d'autres, ou romains, oui, de l'en bas, oui, avec un projet. Alors simplement, le problème, c'est que vouloir se grandir n'est pas mal au départ. Là, je serais tenté de dire, on passe de Lénine à Staline, mais il y a un glissement quand même de l'un à l'autre, oui. Il y a un glissement de l'un à l'autre, mais c'est ça, c'est le problème de ce glissement, ce n'est pas l'image, oui. Il y a une volonté de se grandir. Il y a quelque chose de juste au départ. Le problème, c'est pourquoi ça glisse. Voilà. Oui. Alors on peut peut-être avancer. La troisième catégorie, c'est Nasse Milchama. Oui. C'est faire la guerre. C'est faire la guerre. Alors si on reste dans le sens du Maharal, on va dire que par rapport à l'hypothèse d'avant, l'Avodah Zarah, c'est simplement on se protège. La tour nous protège. On a tiré un peu comme un voile entre les hommes et le ciel. On est entre nous. On a notre propre puissance qui nous protège. On ne s'occupe pas du ciel. On a notre idole en bas, voilà, le ciel, on ne connaît pas. Alors que dans Nasse Milchama, hein, c'est plus combatif, Oui, on a besoin d'en finir avec le ciel.
Mais en soi, je ne comprends pas, en soi, la Vodazara par définition, c'est une guerre contre Dieu. Lorsque Hachem va se plaindre, il appelle ça une jalousie. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu, une véritable guerre. Ça veut dire que pratiquer la Vodazara, a priori, c'est synonyme de guerre.
Alors je comprendrais d'ici, ce qui est intéressant, ça donnerait une définition. Enfin, comment la Gemara voit la Vodazara, c'est un masque. On met un masque sur Hachem. On masque Hachem par d'autres choses, oui, qui sont censées nous protéger et nous séparer de la vision d'Hachem. Donc c'est un masque. Évidemment, c'est une agression.
Qui permet quoi?
C'est une agression, mais passive, on va dire, oui.
Mais qu'est-ce que je gagne avec ce masque?
Avec ce masque, ça veut dire que je n'occupe plus d'Hachem. Souverainement, voilà, j'ai plus besoin d'Hachem. Je crois avoir, mais bon, ça c'est le côté illusoire de la chose. J'ai ou crois avoir autre chose, oui. Je n'ai plus besoin, c'est-à-dire j'occupe mon espace avec cette tour, je n'ai plus besoin de penser à Hachem. La tour répond à toutes mes angoisses. Voilà. Donc c'est un masque. La tour va masquer Hachem. De là à dire, alors, c'est une agression contre Hachem, c'est-à-dire, je dirais entre guillemets, libre à lui de prendre ça pour une agression. Pour les hommes, simplement, on s'en fiche de lui. Entre guillemets. Hachem, bon, il va casser ça, mais c'est un problème. La guerre, c'est que les hommes ont une conscience déjà plus aiguë d'être en face d'un créateur ou de quelque chose, et il leur faut s'en débarrasser. C'est une attitude peut-être plus faible. Ils arrivent moins à ignorer Hachem. Oui, ils sont plus en face de lui. Donc il faut qu'ils aillent lui casser la figure, entre guillemets. C'est une autre attitude. Oui, il faudrait comprendre, effectivement, prendre le temps. Hein. Ces attitudes humaines, certainement, je pense que c'est des manières.
Ceux qui ne se satisfont pas, justement, du simple abrutissement par le travail, en fait, de proposer peut-être le premier.
Par exemple, oui.
Quelque chose et de les occuper comme ça, quelque part. Et ceux qui peuvent aller au-delà et qui ont besoin de.
Oui,
de
peut-être.
Utiliser cette idée d'une façon peut-être plus intellectuelle.
Peut-être, oui, peut-être. C'est une catégorie plus intellectuelle, mais, c'est juste.
Mais qu'est-ce qui gêne dans la chaîne? Ces personnes qui, finalement, vous êtes en train de les présenter de façon très noble. Ouais, ils ne veulent pas se laisser abrutir à un système qui les substitue à eux-mêmes.
Ils demandent à fonctionner dans le système. Il y a des gens qui ne veulent pas aller au-delà, qui ne veulent pas poser plus de questions. Ils se font remplir leur vie, leur néant, quelque part. Et la tour est là pour ça.
Et qu'est-ce... 100%.
Dans les mots de travail comme ça, quoi. Ça rend libre, d'une certaine façon, ça les rend libre.
C'est ça.
Si on peut utiliser cette métaphore. Quoi.
Je parle moi de ceux qui veulent faire la guerre.
Ceux qui veulent faire la guerre,
c'est une noblesse.
Ceux-là sont peut-être les concepteurs plus intellectuels.
C'est possible, oui, ça peut s'entendre. Oui, ça peut s'entendre.
Je vais un peu plus comme ça. Eux sont les concepteurs, justement.
Ils sont les concepteurs, ils veulent pas se laisser avoir ou abuser par une... Oui. Alors, parce que ça irait bien, pourquoi? Parce que dans la punition, entre guillemets, on voit que une d'entre elles, c'est que ce sont des ruchot. C'est-à-dire que ce sont des purs esprits. Ils deviennent purs esprits, non plus de corps. C'est une démarche intellectuelle, mais qui va aller jusqu'à l'oubli de la dimension humaine. Oui. On veut tellement faire la guerre au ciel, tellement raisonner, trouver une formulation, peut-être intellectuelle, pour vider le ciel, oui, qu'on en perd son corps. C'est un des aspects. Des rochines, ça devient des esprits. Des esprits, mais pas des bons esprits, quoi. Des esprits, c'est une forme de dégradation. Les autres, mais c'est peut-être la même chose, dit autrement, les autres, ils perdent leur âme. Il ne reste que leur corps. Bon, c'est un autre type de déliquescence. Oui. Ils perdent leur âme dans l'affaire, deviennent des chédim. Hein. La Gemara, je me souviens qu'il y a un texte qui est amusant. La Gemara, c'est Rabbi Yochanan qui dit, moi j'ai une fois vu des chédim. Ils étaient à 10, ils faisaient minyan avec Tadith et Tfilim. Ça ressemble à des hommes, quoi. Les chédim, ça ressemble à des hommes, mais ça n'a plus d'âme. Oui, bon là, ça ressemble un peu à ce que voulait dire Rav Moshe tout à l'heure, oui. On peut faire sa religion, mais sans âme, quoi. C'est un peu caustique, quoi. Ouais, dans la Gemara. Ouais. Bon. Donc, mais en tout cas, on y perd sans âme, on a voulu, voilà. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est effectivement. Bon, ils sont plus intellectuels, c'est juste, ils ont besoin d'avoir des mots, oui, qui en finissent une fois pour toutes avec le créateur ou avec. On pourrait le comprendre comme ça. Ça ne leur suffit pas une tour, parce que non, c'est pas une tour, il y a bien des questions, la création du monde, l'origine et tout ça. La tour ne va pas répondre à la question d'origine, il faut en finir avec la question d'origine, quelque chose comme ça, on peut imaginer, oui. Alors justement, alors les réponses, oui. Les réponses au cas par cas, Zushomeretna levenavodavod korovim, oui, alors on a sauté, Zushomeretna levenechef sham efitsam hachem, Donc ceux qui voulaient s'installer simplement, ils ont été éparpillés. Zushemeretna levena semilhamana sukofim ruchin veshidim elilin. On a un peu rendu compte. Le point le plus dur, c'est Zushemeretna levena vodavod korim. Ceux qui voulaient faire de la tour, disons, leur idole, oui, ou quelque chose comme ça, eux perdent leur langue. Ki sham bala l'Hashem sefat kolaret. Donc la Gemara ici met en vis-à-vis, oui, en vis-à-vis de l'idolâtrie, la perte de la parole. Puisqu'il y a plusieurs onshim, il y a l'éparpillement, la perte de la parole, et aussi une difficulté qu'on avait vue, le fait qu'ils perdent leur corps, hein, qui veut dire ruchin, ce qui n'est pas du tout marqué dans le pasouk. Donc, il y a deux questions. Un, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc de Nassim Kofim Ruchin Veshedim? On n'a pas vu ça dans le pasouk. Oui, ça c'est une chose. Et deuxièmement, le vis-à-vis. Il y en a deux pour lesquels le vis-à-vis marche, si vous voulez, au niveau de l'image. Ceux qui veulent se rassembler autour de la tour, Hachem les éparpille. On voit le vis-à-vis. Voilà. Ceux qui veulent faire la guerre, ils ressortent éclopés. On comprend, disons, au niveau de l'image. Ils ressortent éclopés. Ils veulent faire la guerre à Hachem, ils y perdent leur âme. Voilà. Mais ceux qui veulent faire Avodah Zarah, ils perdent leur langue, leur latin, si on peut dire. C'est moins évident. En quoi l'idolâtrie, qu'est-ce que l'idolâtrie a à voir avec la parole de spécifique? Qu'à la guerre, on revienne éclopé, je comprends au niveau de l'image, et même au niveau de la traduction de l'image, on a un petit peu expliqué. Oui, ils reviennent éclopés, ils perdent leur humanité, ils se perdent dans des raisonnements intellectuels, ils en meurent. Ceux qui veulent se regrouper, former corps, oui, eh ben, l'Empire soviétique explose. Très bien. Bon. Oui.
C'est pas justement l'impossibilité de... La non-possibilité de dire le MS, quoi, de perdre, donc de le dire d'une façon idolâtre, quoi. C'est pas ça l'expression des différentes langues, des différents peuples. C'est l'expression de leur culture, c'est-à-dire leur façon d'appréhender l'absolu comme ça, d'une façon palestine. Quoi. Ils ne peuvent plus parler cette langue du Lashon HaKodesh, si on considère qu'ils parlaient cette langue-là.
Oui, ça c'est juste. Donc, oui. Oui, ça c'est juste
ça,
que...
Je veux dire, bon, la Avodah Zarah, c'est quelque part essayer de circonscrire cette idée de l'absolu, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Dans la meilleure interprétation.
Tout simplement, c'est la cause du langage, c'est que Dieu existe. Reconnaître Dieu, c'est quelque part, on peut lui parler,
oui.
Avouer qu'il existe à travers des mots. Donc c'est peut-être ça le judaïque et les judaïques de l'actuelle histoire. Je veux dire, le dénier, quelque part, c'est...
Oui, ou alors l'idée.
Je pense qu'ils l'ont reconnu, mais
c'était travesti.
C'est une dimension multiple qui est dans cette base. C'est pour ça qu'ils ont recherché l'unité. C'est la dimension multiple qu'ils n'ont peut-être pas assumée.
Oui, ce que vous avez dit.
Qu'est-ce que vous avez dit, dimension multiple?
Dimension multiple d'Hachem, je pense que bon, je veux dire, la tentation d'idolâtre, c'est d'essayer justement de circonscrire cette dimension, le fait de vouloir arrêter les choses.
Ce qu'on avait dit, c'est-à-dire...
De construire un système pour mettre quelque chose entre nous et Hachem.
Mais qui permet de dire qu'il fonctionne de façon machinale, c'est quoi? C'est que je vais limiter Hachem.
Je vais essayer d'arrêter ma pensée quelque part pour pouvoir fonctionner dans mon monde. C'est un peu ça.
Donc de ne pas être encombré en permanence par la pensée de Dieu.
C'est ça, quelque part, d'arrêter d'être interpellé comme ça en permanence.
Donc garder une sorte de jardin secret le plus ample possible.
Et de me tourner, en fait, vers... Bon, au lieu de me tourner vers le haut, je me tourne un peu plus vers la communauté et j'essaie de construire mon propre système.
Et donc le bilboule du Lachon, donc le...
Je pense que chacun est reparti, je veux dire, avec un éclatement, on va dire, des différentes façons de voir. C'est ça, les fissures.
Mais en quoi ça va obliger, a priori...
La communication de sa langue va parler sa vérité, va parler sa façon de voir le monde.
On est par rapport à la Shana Kodesh, ça c'est juste.
Comme Isaac et Negatila, donc chacun est renvoyé à sa propre. Je pense que c'est ce qui peut expliquer. Quelque part, la dimension de ne pas avoir vu le multiple, on a été. De ne pas avoir vu cette dimension multiple, je veux dire, à travers l'unité qu'ils pouvaient avoir, ils étaient confrontés à la multiplicité du divin, ils ont été, je veux dire, cette multiplicité a été projetée finalement dans l'humanité même, quoi.
Oui, ça s'entend comme ça.
Ils ont été appelés à vivre historiquement.
Voilà, ça, c'est Efi Tsam. Ce que vous dites, ça, c'est Efi Tsam. Ça, c'est encore un autre aspect. Le Efi Tsam, le fait qu'on les a répartis parce qu'effectivement, il y avait une volonté d'unité, mais d'unité un peu totalitaire, en tout cas bétonnée, de refus du multiple. C'est ça qu'Hachem répare, si on peut dire, c'est aussi une réparation dans le Efi Tsam. Alors, ce que j'avais entendu sur la langue, effectivement, c'est que si on parle par rapport à la Shana Kodesh, comme on vient de dire que l'idolâtrie, c'est un masquage, hein, donc vous avez parlé de travestissement, oui. Donc s'il y a travestissement du divin, oui, eh bien on est effectivement dans l'ordre de la culture, on est automatiquement projeté dans l'ordre de la culture, mais plus dans l'ordre de la Shana Kodesh.
On sait que la Shana Kodesh, c'est une langue qui s'interprète,
c'est une langue qui s'interprète. Oui, c'est une langue qui s'interprète.
Et c'est que s'interpréter.
Voilà. Et c'est une langue. Voilà. Alors. On va.
Ce qui... Je pense qu'il y a quelque chose à poser.
Voilà. Ce qui va dans votre sens, par exemple, bon, ça c'était un petit peu le maral qu'on avait cité, hein. Le maral qui va dans ce sens-là, c'est que le maral dit que l'homme il peut atteindre une dimension des lions, des supérieurs. On va rejoindre notre idée-là, mais c'est seulement de koar. C'est en potentiel chez lui. Il dit l'homme n'est pas dans les lionimes. On n'est pas des anges, on n'est pas Hachem. Mais il y a une possibilité pour l'homme, oui, un koar de grandeur. Par contre, la concrétisation absolue de cette grandeur, vouloir incarner cette grandeur de manière absolue, la figer, oui, là, quand on veut incarner cette grandeur, là, on s'égare. Là, l'homme n'est plus lui-même. Oui. Et peut-être c'est un petit peu, pourquoi je dis ça ici, c'est que ça va peut-être dans le sens que je dis, c'est que le Lashon HaKodesh n'est pas une langue qui se parle, c'est une langue qui se recherche. Il y a une dimension de recherche. Le Lashon HaKodesh s'interprète. On est en dimension de recherche. L'homme est en recherche de sa grandeur. Et non pas en accomplissement de sa grandeur. Alors, il y a quelque chose ici dans la tour de Babel où on a voulu accomplir. Oui, accomplir la grandeur de l'homme. Et toujours tous les empires comme ça, surtout quand ils sont totalitaires, veulent accomplir une certaine grandeur de l'homme. Oui. Et dès qu'on est dans l'accomplissement, on est dans l'écrasement aussi de l'homme. Il y a une dimension de recherche. Alors, maintenant, pour l'aspect idolâtre, on avait aussi évoqué un autre aspect, c'est que dans l'idolâtrie, je ne sais pas, je m'avance peut-être, je n'ai pas étudié les idolâtries romaines, grecques et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de place pour la parole. On fait des corbanotes, il n'y a pas de prière comme chez nous. Ou vaguement, évidemment, on va offrir un truc au Dieu en demandant qu'on ait la bracha. Mais il n'y a pas réellement un usage de la parole. On n'est pas dans la parole avec le Dieu, mais dans le faire. On amène des corbanotes et puis que ça marche. J'ai l'impression.
Tu veux dire sans être soucieux de la communication qui va avec.
Oui, oui.
Il n'y a pas le lien choses. Avec le divin qui m'intéresse.
Voilà, il n'y a pas un lien, voilà.
Mais c'est...
L'opératoire.
C'est l'opératoire.
Oui.
Et donc, à la limite, le passage à plusieurs langues va être finalement une sorte de sinécure pour obliger les personnes à communiquer, sachant qu'ils n'ont pas le même mot.
Oui,
ouais, donc on va. Donc finalement, c'est presque une sorte de réparation.
Ça, de toute façon, il y a un tikkun dans tout Onesh, il y a un tikkun. Ça va les obliger à retrouver le Lashon HaKodesh, peut-être, parce qu'ils n'ont plus les mêmes langues.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Mais les incantations sont souvent magiques. Parce qu'on voit dans la.
Les incantations, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Au moins
voilà,
des
mais
phrases pas. Un peu. Au moins, ne serait-ce que pour motiver les gens derrière.
Voilà. Mais seulement les phrases, dans la Gemara, on voit, c'est souvent ce qu'on appelle les lachashim. Ces incantations, c'est plus ou moins magique. C'est des phrases qu'on dit ou des choses incantatoires, mais ce n'est pas authentiquement une prière. À voir, il y a peut-être autre chose. Oui. Enfin, pour ça, le christianisme est dans l'ordre de la prière. Le christianisme n'est pas fondamentalement idolâtre. Il y a une prière, mais dans l'idolâtrie proprement dite, on est plus dans l'incantation, c'est-à-dire presque dans la magie, oui, que dans une vraie parole. Et la magie aussi, et l'incantation magique, oui, l'incantatoire, c'est aussi une dégradation de la parole. D'ailleurs, hein, comme on dit, vous savez tous, hein, abracadabra, ça vient de l'araméen, c'est abracadabra, que ça soit comme j'ai dit. La parole est strictement opératoire.
De l'oracle. Fonctionnel. Exclusivement fonctionnel. Pas pour voir si on pourra gagner la guerre, s'il est temps de provoquer une bataille, mais jamais.
Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est aussi des dimensions de la
C'est une parole qui est utilitaire exclusivement depuis le début. Ça veut dire que.
Il n'y a pas un lien, voilà. Il n'y a pas un lien parlé. Il n'y a pas un lien de parole. Il y a un usage de la parole, oui. Il y a des mots qui sont dits. Il y a un certain usage de la parole, mais pas un lien parlé. Je ne voudrais pas théoriser là-dessus aussi brièvement. C'est juste une intuition que, en tout cas, ou qu'il y en a un, mais qu'il est faible, oui, dans l'idolâtrie. Voilà, donc, juste pour rendre compte le vis-à-vis entre l'idole, l'idolâtrie et la perte de la langue, avec ce qui était aussi suggéré, c'est que comme on a un travestissement, un masque, oui, donc on n'a plus, de lien avec Hachem, et donc on n'a plus de lien avec la langue qui dit, ou qui intuitionne justement, qui intuitionne Hachem. Qui dit idolâtrie, dit perte du Lashon HaKodesh, de la langue qui essaye d'intuitionner au-delà. Alors il n'y a plus besoin d'intuitionner au-delà, puisqu'il n'y a pas d'au-delà.
Troisième possibilité,
oui.
Je permets de faire une troisième possibilité par rapport à ce qu'on avait évoqué la semaine dernière. Si on dit que Dvarim Achadim, donc sans forcément passer par le Lashon HaKodesh, donc Rashi avait dit, on n'a pas vu de source du Midrash pour Rashi, que Safa Achad c'était une Lashon HaKodesh, en faisant éventuellement l'omission de, sans forcément, peu importe s'il y a ou pas le Lashon HaKodesh, ce qu'on avait voulu remarquer, c'était que le verset stigmatisé sur Dvarim Achadim, qui veut dire quelques paroles, sous-entendu, on était dans un mode de communication qui faisait fi des mots pour communiquer, non pas par volonté de consensus politique stalinien, toutes les idées qu'on a pu véhiculer jusqu'à présent, mais l'idée du fait que puisqu'on est proche l'un de l'autre, on n'a pas besoin forcément d'exprimer les choses, si ce n'est les projets charnel qu'on a pu créer. Alors, dans ce vis-à-vis, on pourrait éventuellement comprendre que, justement, Hachem va... Puisque, donc, finalement, donc, ce qui s'est passé, c'est que plus on vit dans la complicité, moins on s'exprime, et donc moins, quelque part, on peut exister. Donc, la seule, peut-être, solution serait, justement, de prendre les personnes... de les mettre dans des univers dans lesquels ils ne peuvent plus avoir de complicité puisque y a aucun, le vocable ne marche pas, donc réamorcer la pompe à partir de rien pour obliger une communication. Oui, ça veut dire que puisque on n'a pas le même nom pour une, comment dire, pour un verre, pour une bière, c'est que il faut tout réinitier à la base. Et donc on va essayer de retrouver un vocable qui n'est pas forcément lié au Lashon HaKodesh ou pas, mais on va essayer de retrouver un mode de communication. On va commencer à réexister dans le regard, dans l'appréciation, dans la volonté de découvrir autrui, de se découvrir soi-même. C'est un petit peu ça qui serait en fait le corollaire. Donc effectivement, vous faites remarquer en fait qu'il y a une vis-à-vis dure à trouver. C'est-à-dire que dans Avodah Zarah, c'est peut-être la chose la plus subtile.
Oui. Ouais,
donc d'où la recherche qu'on a, quoi.
Alors il faut aussi faire remarquer un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment relevé jusqu'à présent, c'est qu'on a affaire à un projet collectif. Hein. Enfin, ça a peut-être été dit, mais sans être souligné, on est quand même dans un projet collectif. Hein. Hovo, ni venez là nous, hein. Venons, on va se construire, oui. Nassé là nous, naalé, c'est toujours on, oui, au pluriel, nous allons faire, oui. On a un projet collectif, oui. C'est, alors, l'Agmara ne s'est pas appesantie là-dessus, mais c'est un sous-jacent, oui. Ils veulent faire tous ensemble à Avodah Zarah, ils veulent faire tous ensemble la guerre, ou bien s'installer tous ensemble. Hein, le Maharal va souligner, c'est un non-dit, si on veut, c'est-à-dire, ça n'est pas exprimé en tant que tel par le Midrash, mais il y a le côté collectif, il y a une ardoute. Ils veulent une unité. C'est quand même marqué Safahat, dans le pasouk ça apparaît. L'Agmara ne met pas l'accent sur cela tellement, peut-être après dans Rabinathan, peut-être,
voilà.
Dans Rabinathan, mais... Disons, on a affaire à un projet collectif. Donc, il y a un écrasement de la parole aussi. Peut-être comme on a dit avant, parce qu'il n'y a plus de multiples. On a un projet collectif. Qui dit collectif, dit communauté. Mais il y a un danger dans la communauté. Il y a un danger dans la communauté. Pas dans toute communauté. Mais là, il y a un danger de concentration de la communauté. De perte de la multiplicité. Ou surtout de l'individualité, de la personnalité. Oui. Ça n'est pas dit en tant que tel. Mais il y a un safarat, il y a une langue commune. Oui. Il y a une langue commune. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que dans les psukim, le pasuk d'avant mentionne qu'ils ont tous des langues différentes. Ils se façonnent. Et après, on dit safara. Donc, il y a une langue commune qui est le Lashon HaKodesh, mais chacun a sa personnalité. Et là, à partir du safara, tout varim achadim, Dvarim Achadim, on a l'impression, c'est ça qui est en trop, Dvarim Achadim, oui, on a peut-être une tentative d'unification même de la langue. Safahat, c'est bien, mais c'est pas forcément la seule langue. C'est peut-être une seconde langue que tout le monde a, à côté de l'autre langue.
Bon, ou bien, on avait proposé deux autres solutions.
Ouverture,
soit
la question sur le texte.
Ouverture, oui. Deux autres possibilités, on avait proposé la semaine dernière. Soit que c'était anachronique, que ce passage de Safahat est avant le Bilboul et tous les
êtres
qu'on a vus. Bon, mais là, on n'a vu aucun Rishon qui le précise. Ou bien, deuxième possibilité, toute la terre ne parlait qu'une seule langue, c'était dans l'impression des gens de cette peuplade. C'est une sorte d'illusion peut-être, que... ça reste ouvert, en fait.
Voilà. Voilà, donc, juste en arrière-plan, vous voyez, parce que ce texte-là ne fait pas tout le tour du problème, oui. Quels sont les aboutissants étonnants? Évidemment, il y a, en arrière-plan, il ne faut pas oublier le côté commun, vous voyez, collectif, oui, qui est certainement un élément important d'écrasement de la langue.
Tout en main capital, tout simplement. Il y a tout en main idéologie.
Dvar Merhadim, oui, c'est ce que Rashi met.
Il avait, oui. Bon, en fait, on a vu des marxistes dans le monde entier qui parlent.
Oui.
Avec,
oui, c'est ce que dit Rashi.
Voilà,
c'est ce que dit Rashi. Et ça,
on arrive à le concevoir.
Et ça, voilà, c'est ça, c'est dans ça. C'est le, mais juste dans les mots du verset, pour essayer de situer, de cibler où c'est dans le Dvarim Achadim. Oui. Dvarim Achadim, et justement, Rashi, le Maharal, pardon.
International,
oui, pointe le Echad, une volonté de Echad, d'unité, ouais, des hommes. Un Echad des hommes, hein, ça c'est ce qui est Dvarim Achadim, que Negen Yehudo Shel Hashem, hein, contre l'unité d'en haut, l'unité d'en bas. Hein, donc il y a ça en sous-jacent.
Qui sera validé par Dieu, puisque En Amechad et Safa Achad.
Oui, oui.
C'est-à-dire que ça va être validé. Oui, oui. Mais j'ai une question à vous poser alors, à ce moment-là, si, avec le marxisme international. Et alors, qu'est-ce que vous faites de ces trois catégories de personnes?
Je pense que dans tout projet, enfin, je veux dire,
trois promoteurs.
C'est un premier projet de société dans le monde, finalement, qui apparaît. Quoi.
Oui, mais apparemment, il y a trois avis différents. On n'est pas dans une communauté d'esprit.
C'est plutôt comme des gens qui enfin, des fonctions qui vont se complémentariser. Quoi.
Comment? La question, comment? Comment vous réunissez dans le même projet une personne qui dit Vénéchef, cher, on va s'asseoir là-haut.
On peut entendre, c'est des stratégies. C'est des stratégies différentes.
Ah, deux secondes. Peut-être,
je ne sais pas, dans chaque projet totalitaire, il y a quand même, je veux dire, c'est peut-être pas si totalitaire que ça. Quoi. Je pense que ça se répond quand même. Les trois occurrences, elles sont quand même.
Alors, c'est ce que. La question était peut-être une manière d'introduire la suite du texte, qui effectivement va dans ce sens-là. Tania Rabinatan Omer, Kulam le Shem Avdat Koromit Kavnu. Et ça ne contredit pas forcément ce qui précède. Tous avaient un but commun, qui est un tronc commun, un démetteur commun, qui est la Odazara. Après tout, le point commun aussi, c'est que la langue a été détruite pour tous. Donc, tous ces trois-là, la guerre, le Neshef Sham et la Odazara en tant que telle, rentrent dans un tronc commun. Il y a unité du projet. Alors, je vous propose de passer directement à la suite. La Gemara va le reformuler autrement, à travers une autre image, celle de la tour elle-même.
Alors, deux secondes, avant de rentrer dans la justification de la qui est bizarre de la Gemara,
oui.
Si on dit que le point commun, c'est la Avoda Zara,
oui.
Alors, la question qui est la suivante, c'est est-ce que cette Avoda Zara, quelque part, ils avaient un mobile commun.
Oui.
Ce mobile... C'est une stratégie pour arriver au but qui était chacun son but à géométrie variable, qui était soit tantôt Neshef Sham, soit tantôt Avodazara pur et dur, soit Milchama, ou bien c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que chacun de ces créneaux était en fait un moyen pour arriver au but qui s'appelle cet Avodazara.
Ou dire que c'est une traduction, que leur guerre, oui, ou leur Neshef Sham, tout ça, hein, au fond, c'est une manière de se masquer Hachem, c'est-à-dire leur but, c'est de se débarrasser d'Hachem.
Qui est stratégique, qui est but?
Ici, c'est le but, c'est la kavana, nit kavnu, oui, le but, c'est de se débrasser de la chaîne.
Mais est-ce que quelque part, tout projet de société, je veux dire, il peut faire autrement que de se débarrasser de la chaîne? Est-ce qu'il pouvait réellement faire autrement? C'est ça qui...
Oui, ça, c'est une bonne question. Ça veut dire que.
Est-ce qu'ils avaient d'autres choix pour se constituer en société
que d'essayer de faire un bon état, parce que c'est vrai que c'est le fond du projet. Mais si c'est le fond du projet, c'est que quelque part, ils n'avaient peut-être pas la possibilité de faire autre chose pour se bâtir une société.
Alors le...
Finalement, on voit que la première fois dans l'histoire où il y a apparu une société, je veux dire, bon, c'est Abou Dazara, c'est le point qui ressort.
Quoi. C'est le point qui ressort, ça veut dire que l'homme a du mal.
C'est
que...
l'objectif, ouais. C'est l'objectif au ouais. fond, mais c'est vraiment l'objectif au fond, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour construire une société que de se débarrasser de la chaîne.
Oui, alors...
Ou ça depuis le début, ou bien... Il s'avère que...
Est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples, je veux dire, d'une société qui s'est construite finalement, à part peut-être dans des conditions dans le désert, etc., avec les ministères, quoi, avec Hachem, quoi, je veux dire, c'est...
Oui, alors, mais c'est clair que c'est le problème de l'homme, non, que ce soit impossible.
C'est dans des conditions impossibles, quoi, c'est le genre qui ressemble ouais, pas à son...
Oui, alors c'est sûr que c'est ça le...
Bon,
c'est un problème général, ça, c'est clair que c'est le problème général de l'homme, oui. Ici, voilà, ils veulent se construire en société. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'il y a une possibilité, il y a quelque chose qui peut tenir la route là-dedans. Les Chachamim ont l'air de dire, l'idolâtrie n'est pas obligée pour construire une société. Oui. Elle pose problème, oui, mais elle n'est pas obligée non plus pour se grandir, puisqu'on va dire comme ça, l'enjeu pour les hommes, c'est d'avoir une ambition, de vouloir se dresser, se tenir debout, oui. Est-ce que le rapport à Hachem est écrasant à ce point qu'il faudrait une idolâtrie pour ne pas être écrasé? Ils veulent se dresser. Pour se dresser, ce que vous dites, si je comprends bien.
On a l'impression que c'est grossier, c'est forcé, c'est ce qui apparaît risible. Quoi. Parce que tous les motifs comme ça, le fait de monter, de faire une guerre, ça paraît hautement risible.
Oui.
Donc on a l'impression qu'ils sont obligés de forcer le trait comme ça, de faire, je veux dire, de
fabriquer oui.
ce masque au maximum pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir. De construire leur société, c'est un aveuglement, quoi, quelque part. On n'arrive pas à s'expliquer, c'est très naïf, effectivement, contrairement à la remarque du.
Mais elle n'était pas sur.
Mais elle n'était pas sur une partie. Hein. Que sur une partie. Hein.
Elle s'est appliquée sur la première, pas sur la deuxième. Sur la deuxième, la Gemara ne va pas dire que c'est quelque chose de risible.
Mais. Ouais.
C'était dans le premier jet, mais pas dans le deuxième.
Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la question de la conduite globale?
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on est devant un échec. Cet échec a quelque chose de fondateur. Je ne voudrais pas parler de moment dialectique dans l'histoire de l'humanité.
Oui.
Que c'est un moment dans l'histoire de l'humanité qu'il ne faut pas prendre de façon morale directrice.
Oui, c'est d'accord, oui.
Il y a des mal sur les théories qui n'ont pas lieu d'être mises en œuvre et qui n'ont aucun sens.
Oui, oui.
Et que ce moment dialectique est précisément celui de l'homme qui, quelque part, a totalement raison d'entreprendre une telle démarche, mais qui n'a pas la conscience que ça peut se faire à travers une expérience qui est précisément celle d'intégrer sa propre démarche dans le plan d'Hachem. Là, effectivement, c'est la Torah qui va nous donner cette potentialité-là.
Mais
c'est donc peut-être que cette absence même de la Torah de leur projet qui induit à la fois la validité et l'impossibilité de ce projet.
Mais question pourquoi ? C'est un peu facile. C'est un peu facile de dire qu'il manquait la Torah dans cette histoire. Encore faut-il le démontrer.
Oui, c'est ça. On va questionner. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait défaut ? On voit effectivement qu'ils sont mis comme une avant de crevée, ça a l'air impossible, ça a l'air difficile pour ces hommes. Ils refusent de se... Ils n'arrivent pas à se dresser. Ils veulent se dresser, parce qu'on voit que la problématique, c'est de vouloir se dresser. Et on a l'impression que se dresser avec Hachem au-dessus de soi, c'est impossible. Ils sont dans cette problématique-là, qui est peut-être la nôtre aussi. Il faut bien qu'on se rende compte qu'on a peut-être le même problème, oui. Voir en quoi la Torah nous donne un moyen de nous tenir debout sans être écrasé par le ciel, oui. C'est peut-être ça l'enjeu de la Torah, c'est qu'il y a un vrai problème. Au fond, effectivement, comme vous dites, c'est pas un problème de bien ou de mal. On veut apprendre de ce Dora Flaga. On voit simplement qu'effectivement, les hommes ont du mal à se tenir debout. Si on prend le terme du Maharal, qu'ils veulent être dans les Yonim, ils veulent se tenir debout, ce qui est bien. Le Maharal dit jusqu'à un certain point, ben, c'est bien, on n'est pas obligé de ramper. C'est bien pour l'homme qui se tient debout. Mais apparemment, il n'y arrive pas sans idolâtrie. Il n'y arrive pas sans se masquer Hachem, parce que c'est un petit peu ou Hachem ou les hommes, quoi. C'est ou Hachem ou l'homme. Et ça, c'est une problématique.
Est-ce que dans le langage du Maharal, on ne peut pas dire que le Maharal,
Il va y arriver, oui, c'est juste.
Et à ce moment-là, c'est Kagava, c'est Kilo Vedavodazara. Je veux dire, donc à ce moment-là, donc, on retrouve toujours la Kavana de la Vodazara dans tous les cas.
Que la Koes. Il me semble que c'est que la Koes Kilo Vedavodazara. Je ne sais pas si Gaava, c'est Kilo Vedavodazara.
Il n'y a pas de place.
Gaava aussi. Gaava aussi.
Comme s'il redémine.
Voilà. Mais on reste. Voilà. Mais cela dit, c'est juste. Le Maharal va aller dans le sens d'une Gaava, il va prolonger. Il y a un orgueil, oui. Mais je comprends aussi que l'orgueil, si vous voulez, la question tout à l'heure était juste, l'orgueil, c'est jamais qu'une défense. L'homme se défend avec de l'orgueil parce qu'il ne sait pas se tenir debout autrement que dans une attitude orgueilleuse. Vous voyez, c'est une attitude faible, oui. L'homme a du mal. Donc
oui, mais sauf que l'homme, il a dit la chaîne, entre guillemets, il n'y a rien à lui reprocher. Quoi. Je veux dire, c'est, on va dire qu'il n'y a pas encore de contentieux entre eux. Je veux dire, c'est,
entre qui et qui?
Entre Hachem et puis cette génération-là, si c'était que le contentieux des marques avec la construction de la tour.
Oui, mais parce
que. On
ne
peut pas parler de défense de cette génération-là par rapport à Kadosh Baruch Hu.
Non, mais ils veulent se tenir debout.
Ils reprochent à Hachem d'avoir détruit leur ancêtre. Justement, dans le. Il dit qu'il y a un rabbin à un moment donné qui dit qu'il y a un peu qui reproche à Hachem d'avoir détruit leur. Le
prédécesseur.
Je
comprends
que ça, c'est un
contentieux. Je reviens à la Mishnah, on voit, je vous porte le mot de que le Rabbanoui n'a droit ni au Lamava ni au guide.
Yadoun Ruchi Ba'adam. Le Yadoun Ruchi Ba'adam.
Parce que là, on voit qu'il y a un progrès pour le
Raga,
c'est qu'il n'a pas droit au Lamava, mais il a le droit au guide. Un jugement. Donc il y a quelque chose, il y a déjà un progrès. Il y a une évolution de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je pensais que c'était un fait d'évolution, de développement de l'espèce, à travers des épreuves, quelquefois des cataclysmes. D'ailleurs, on ne peut arriver que par des cataclysmes, par des moments nécessaires.
Oui.
Le schéma trifonctionnel que j'ai déjà évoqué avec les trois catégories de votes,
oui.
Par habit dans la Gemara, vous avez dit une dimension qui est effectivement celle qu'on trouve dans les sociétés ensuite, c'est-à-dire qu'il y a une matrouille, il y a une cosa et il y a un travail qui travaille sur la société de l'autre. Et là, on retrouve quelque chose déjà de ce schéma que l'on fait de façon complètement déformée, déplacée, mental, tout ce qu'on veut, mais qui, en filigrane, disons, commence à indiquer les directions possibles, y compris à l'intérieur de l'éclatement et du désastre.
Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut. On va essayer. Le Midrash étant très allusif, oui, il nous invite surtout à des questions, ça veut dire, ou même le Maharal qui explique, mais il y a des questions, effectivement, oui, ce qu'on voit, si ça a un enseignement pour nous, ce de Raflaga, oui, c'est l'interrogation, effectivement, de savoir comment, lorsqu'un homme veut se tenir debout, c'est pour ça que je voudrais passer à la suite, parce que le Maharal, ici, il est très clair, il dit le fait qu'il veuille se tenir debout, et même dans une certaine mesure construire cette tour, ça n'est pas initialement une mauvaise chose. Si vous voulez, l'orgueil, oui, la gaava, c'est déjà une dérive. On va dériver, c'est-à-dire on veut se tenir debout, mais du coup, pour se tenir debout, il va falloir aller plus loin. Il va falloir verser, basculer dans l'orgueil, donc la guerre contre Hachem, etc. Oui.
Mais attention,
Subversif de Nîmes, par exemple, parce que le texte dit quand même clairement que. Il savait qu'il était Hachem et il se rebellait contre Hachem en connaissance de cause. Et c'est ça qui faisait le côté un petit peu unique de cette génération. Donc il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire, la difficulté de se tenir debout sous Hachem, c'est un peu par rapport à l'homme. Bon, il savait très bien qu'il était Hachem. Il connaissait Hachem, il se rebellait en connaissance de cause.
Mais on
est
pas
là. Oui, attention, on va aller. Ça, c'est un autre Midrash. Si dans l'autre Midrash,
on ne parle pas d'Emeraude. C'est juste ce que vous dites. Mais vous voyez, il faut faire attention au texte. On est dans ce texte-là. Bon, c'est un passage précis. On ne parle pas de Nemrod. C'est sûr que si on parle de Nemrod, oui, ou de Staline, si vous voulez, alors c'est encore autre chose, parce qu'il y a effectivement une supercherie. Oui, les gens ont construit une tour, mais c'est Nemrod qui est derrière. C'est un autre discours. C'est un autre Midrash, vous voyez. Et donc, on va rester dans ce Midrash qui est intéressant, qui est, je dirais, presque à l'avantage d'être un petit peu elliptique. On ne sait pas très bien de quoi on parle, oui. On pose plus de questions qu'on donne de réponses, voyez. On a un midrash ici. On ne sait pas trop, oui, quels sont les enjeux. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, on a une volonté des hommes d'être un, de se grandir, oui, et on a l'impression qu'ils n'ont pas d'autre idée pour se faire, et sans parler de Nemrod qui serait derrière et qui, lui, aurait une certaine ambition tout à fait autre, oui, ces hommes-là n'ont pas d'autre moyen que de faire la guerre à Hachem. Mais ils ont peur de l'en haut, ou pas peur, ou ils veulent s'en débarrasser, ils sont écrasés par le ciel.
Mais
c'est des Gaulois, quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est depuis le début. Si le Midrash dit un indien nid kavnou les chem avod korev, ça veut dire que dès la première ambition de grandeur,
elle est idolâtre.
Camoufle, elle est déjà idolâtre. Ce qui veut dire que c'est une véritable réflexion sur l'ambition.
Alors, oui, alors, Masser, pour ça, on va voir sur le Maharal. Hein. Comme dit le Maharal, il dit, regarde sur la suite, quand il dit, peut-être on va y arriver tout de suite, hein. Donc, enfin, encore qu'il y a la création du Shem, il faut juste passer par là. Ouais. D'où est-ce qu'on sait que c'est Avodah Zarah ? Parce que c'est marqué Kivachana Selanu Shem. Il y a un problème de nom, hein, que l'homme ait un nom. Oui ? Ou Kivatam Veshem Elim Acherim Lotaskiru. Vous ne rappellerez pas hein, les noms des idoles. Avoir un nom pour cette Gemara qui force un peu. Oui, là aussi, c'est une question. La Gemara dit avoir un nom, oui, c'est idolâtre. Chez eux, peut-être. Tu as le droit de dire que ce qu'eux ont fait, c'est de l'ordre de l'idolâtrie. Mais enfin, avoir un nom, oui, le Shem Oish, Mordechai, ou Mordechai Shemo, avoir un nom, on peut s'appeler Mordechai, avoir un nom.
Non, on peut surtout s'appeler le personnage central qui est juste, qui précède le chapitre qu'on est en train de lire,
oui.
Il s'appelait Shem.
Shem.
Le héros de l'arche.
Oui.
De noir. Et donc Shem, la première occurrence au moins de la Torah,
oui.
Qui est Shem, c'est une occurrence des plus majoratives, oui. Ouais, des plus belles. Donc c'est quand même incroyable que la Torah, enfin le Midrash a vu dans Maaseh Lanu Shem une trace d'un verset qui se trouve dans Shemot bien après, alors qu'on avait quelque chose de beaucoup plus proche, ouais, qui était un petit peu d'ailleurs tout l'enjeu d'après une lecture chassidique de l'épisode du déluge. Oui, lorsque le Baal Shem Tov fait remarquer que lorsque Hachem dit à Noar, Aselecha Teva, fais-toi une arche, et dit le Baal Shem Tov, Teva veut dire un mot.
Oui.
Oui, et les dimensions de l'arche sont de 300. sont de 300 coudées, bon, c'est au niveau du drache, hein, oui. De 300 coudées et de 30 coudées et de 50 coudées, qui fait en fait la chaune. Donc fais-toi donc un mot avec un vocable, c'est-à-dire qu'il y avait tout un enjeu ici de la perversion du Dibour, et Shem va être l'enfant qui s'appelle le nom, donc qui va être un petit peu la référence par excellence au niveau du rattrapage du langage, et donc là on aurait pu très très bien dire que Naselon Shem c'était dans le sens de Shem. Ouais, donc là, apparemment le Midrash vient ici assez déroutant, quoi. Il nous amène dans un...
Donc peut-être le Midrash va suggérer qu'ici, il y a une perversion du nom. C'est-à-dire, se faire un nom, oui, oui. Peut-être le Naasé, sans faire un, c'est encore autre chose. Se faire un nom, c'est déjà, on peut le lire dans le Naasé Lanu, ou en tout cas, il y a ici quelque chose, puisqu'il y a bien un problème, oui, c'est un problème autour du Shem. Le Shem, qui n'était peut-être pas initialement mauvais, oui, le devient à un moment ou à un autre, oui. À l'instant T0 ou à l'instant T plus epsilon, à un moment, oui, le Naasé Lanu Shem, il y a un problème là-dessus. Mais il faut quand même prendre la mesure de ce que Shem n'est pas automatiquement mauvais, ouais, n'est pas forcément négatif, n'est pas totalement synonyme d'idolâtrie, il le devient. Vous voyez ici le Midrash, il connote ce mot Shem, il l'oriente, mais un petit peu d'après la fin, oui, d'après ce que Zé Achilom l'Assot, parce que le Midrash a lu les psukim. Il n'y avait plus de Kim, alors Naasé Lanu Shem, on voit Hachem qui dit Vezeirilom Laasot. On comprend que ce Shem part dans le mauvais sens. Mais il faut bien bien entendre que Shem, au départ, n'est pas négatif, il le devient. Hein. Ce Midrash, ici, suggère qu'il l'est devenu. Peut-être très vite, mais enfin, il l'est devenu. Oui.
Alors, une question, la référence au niveau de la Avodah Zarah, on peut faire remarquer que ce n'est pas une référence au niveau de la pratique de la Avodah Zarah, mais de la mention, le nom des dieux, des autres dieux, ouais,
vous ne rappellerez pas.
L'Otaskiru, vous ne mentionnerez pas, mais quel est le problème de mentionner? Au nom de quoi je vais mentionner des noms d'idoles? C'est quoi le...
Oui, parce que ça m'inscrit, le fait de... Enfin, au niveau du
c'est le nom de quoi? Pour une prière, pourquoi? On est encore dans une dimension de la parole, là, ici. C'est la mention du nom de Dieu. Pourquoi? C'est pas...
Oui, parce que ça rend la chose, ça la fait ressurgir, un tant soit peu.
Là, ouais. C'est qu'en mentionnant, je vais donner un poids à la chose.
Je donne un poids, je lui donne existence, même seconde, même relative, oui. À plus forte raison si c'est Navoda, mais là, c'est même en dehors de Navoda. Mais disons, ce que je veux dire, c'est que le mot Shem n'est pas. Oui, souvent, on est d'Oresh, par exemple, il y a un type de Drasha qui dit, c'est marqué un endroit, Eidechad. Oui, on parle de un témoin, Eidechad. Et la Gemara en déduit que quand c'est marqué Eid tout court, ça veut dire deux. Ça fonctionne comme ça, la Gemara. Parce qu'une fois, tu as dit Eidechad, donc. Là, aide veut dire un. Mais sinon, aide, bien qu'au singulier, veut dire deux. Ce que je veux dire ici, ils sont le même mode, c'est Shem Elohim Acherim, oui, mais quand c'est marqué Shem Elohim Acherim, alors c'est des noms d'idoles, oui, mais quand c'est pas Elohim Acherim, Shem, c'est pas une idole, oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pipé ici, oui. Le Midrash ici, il va un peu vite et il le sait très bien. Oui, il va un peu vite et il sait très bien que on peut pas si facilement passer de Naselan ou Shem à Shem Elohim Acherim Lotaskiru. Il le fait parce que les psukim, oui, obligent à dire que ce Naseh Shem, c'est Hachem appelle ça, dans le pasuk d'après, Zehirilom Lassot. Il y a une profanation, oui, il y a une profanation qui est faite. Donc, ici, le Shem, on va dire, tourne court.
Est-ce que la fabrication du nom, justement, le fait de fabriquer, de faire un nom, de se fabriquer un nom, c'est pas justement la profession même de
peut-être.
Fabriquer un concept, c'est fabriquer une idolâtrie. On ne peut pas l'entendre comme ça. On est bien obligé de fabriquer une idole avec des.
Voilà. Mots. Votre question est intéressante parce qu'au niveau d'un dracha, on aurait beaucoup mieux eu à faire, au lieu de dire d'être d'Oresh Shem Elohim Acherim, mais le Na c'est la nous, puisque déjà on est dans les drachot, on n'avait qu'à dire Elohim Asecha Lota Asu. Ne vous faites pas des dieux de pierre. Oui, le Na c'est. Être d'Oresh le Na c'est, on a choisi d'Oresh le Shem. Mais ça, c'est possible. Parfois, on voit ça dans les midrashim. On n'est pas ici au niveau de l'alaha. On est dans les midrash, disons, de Haggadah. Tu peux être d'Oresh Shem ou être d'Oresh Naseh. Ça revient peut-être au même, ici au niveau du midrash. Et le Naseh, l'un ou Shem, effectivement, fabriqué, on se fabrique des dieux. Vous voyez, de toute façon, c'est marqué Shem Elohim Acherim. Alors, c'est marqué Elohim Asecha Lotaseh. On se fait un nom, on fabrique. On est dans l'ordre de la fabrication, de la construction, hein, probablement. Et donc là, on est déjà, d'une manière ou d'une autre, dans l'idolâtrie. Alors tout n'était pas la même chose. Tout n'était pas la même chose. Certains.
Ouais, mais pourquoi à ce moment-là, lui s'est pas mis en colère avec eux, et puis cette génération-là particulièrement, on voit que quand même ils s'y intéressent, ils descendent pour voir, ils descendent pour écouter ce qui se passe.
Non, mais ce qu'on voit, c'est que
dans tous les phénomènes historiques, on a eu des peuples mégalos et des gens complètement délirants aussi. Je veux dire.
Mais disons
ce qu'on voit. Qu'il y avait la distance, elle n'existait pas précisément.
Il y avait plus de rapprochement là.
À part ça, justement, depuis le début, et qui plus est, a priori, justement, c'est parce qu'on n'y voit rien dans les versets que justement la Torah prend soin de nous dire que même là-dedans il y a un problème. Chez Alexandre, chez Nabucodonosor, on voit clairement des personnes, enfin, peut-être pas Alexandre en tout cas, mais en tout cas, Nabucodonosor, on voit clairement des dictateurs. Ouais, donc, à la limite, là, on peut pas se méprendre par rapport à eux. En revanche, on apprend vraiment quelque chose de tout à fait intéressant ici. C'est que même dans ce qui s'appelle un consensus, alors soit le consensus à quel que soit le niveau, hein, toute pensée consensuelle, soit dans des personnes extrêmement proches qui ont une absence de communication, eh ben, là le bât blesse. Là on rentre de façon extrêmement ou pernicieuse ou vicieuse dans un système de Avodah Zarah, mais qui n'est pas du tout perceptible à l'œil nu. Oui, Nabucodonosor, c'est clairement perceptible. On ne peut pas s'y méprendre. On aura beaucoup de mal à trouver des traces de justice, de tzitkout, dans la civilisation de Nabucodonosor. En revanche, ici, il faut donc décortiquer le Gemara pour essayer de voir, mais c'est la question de départ, quoi. Mayavou, mais qu'est-ce que vous leur voulez? Ça sonne bien, tout ça. Donc, c'est justement ça, c'est le travail, quelque part, de la Torah, de nous amener des images qui paraissent a priori bien et qui sont mauvaises. On voit la même façon dans les couples que la Torah amène, un couple ultime que la Torah amène, non pas au niveau masculin-féminin, mais d'être humain. On a le couple de Yaakov et Esav. Ouais, avant, on avait Yitzhak et Ishmael, c'est clairement deux personnes différentes, un juif, un arabe, on va dire comme ça. Et Adam et Chava, deux personnes différentes. Et puis Yaakov et Esav, qui sont deux véritables jumeaux, qui sont dans la ressemblance parfaite. Et vous regardez les versets, rien n'est marqué sur la dimension mauvaise de Esav. Avec Deloane et Harim, les deux personnes, les deux enfants grandis, on les imagine dans la même yeshiva, dans le même truc. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le camarade de Baba Batra va dire il est revenu fatigué du champ, et ça, alors les Rabim tombent dessus, il a tué, il a volé, il a violé, il a blasphémé. Ouais, il revient fatigué du boulot. Évidemment, on va tous fatiguer du boulot, je sais pas. Donc, en tout cas, on va décortiquer. Sous-entendu, systématiquement, c'est dans les personnages qui sont les plus proches de nous, a priori, que si on arrive à trouver en eux un problème, alors il y aura un intérêt tout à fait évident. Ouais, et pas dans ce qu'on a toujours eu l'habitude de voir chez Esav, dans une sorte de manichéisme du Talmud Torah, quoi. C'est-à-dire avec le gentil et le méchant. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, ça, je pense que là, on touche vraiment un passage qui est révélateur de ça, un passage dans lequel tout est bien sous tout rapport, à Mechad et même. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans le libellé de Hachem. Il fallait décortiquer même dans le libellé d'Hachem un problème. C'est incroyable. Et pourtant, le bas blesse de façon très, très profonde. Finalement, on se retrouve dans pratiquement les mêmes types de punitions que le déluge, et que, ouais. Alors qu'extérieurement, il n'y avait rien qui pouvait prêter.
Il y a une société consensuelle et sans violence apparente. Disons, les images genre Staline et autres ne sont pas tout à fait bonnes. Par rapport à certains autres midrashim ici, mais ils ont tel qu'on l'a ici et tel qu'on a les psukim, on a une société qui est pacifique. Ça a l'air de se passer bien. Peut-être que c'est une duperie, ça c'est ce que suggèrent d'autres midrash, oui, ou qu'au contraire c'est genre mirador et puis on n'a pas le droit de sortir de l'endroit. Certains midrashim vont dans ce sens-là. Ici on a plutôt l'impression qu'on reste plus près des psukim, cette gemara, c'est-à-dire qu'il y a un consensus, ils sont tous d'accord. Bon, il y a trois stratégies, trois groupes, mais ils sont tous d'accord, il n'y a pas de violence interne. Ils s'entendent bien, ils parlent la même langue. Oui, c'est un universel, mais pacifique. Ça se présente de manière pacifique.
Un universel au sens pas du terme.
Oui, oui.
Voilà.
Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est pacifique, qui est effectivement noble, oui, mais qui finit dans l'éparpillement, qui finit effectivement dans une certaine violence même, hein. Quand ils s'éparpillent parce qu'ils ne s'entendent plus, oui. Donc ça finit quand même dans la violence, oui. Ça commence dans la paix, mais ça finit dans la violence. Non, mais les mots punition, effectivement, même dans le Chol HaTorah Kula, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est souvent, on va parler de sanction, mais au sens plus objectif du mot sanction. Ça veut dire. C'est toujours un tikkun. Toute punition, entre guillemets, est toujours un tikkun. Même une punition individuelle, bon, sauf la mort. Mais la mort, on ne sait pas non plus, ça renvoie à autre chose au-delà. Ils ont en tout cas à l'intérieur du Olam Hazeh, toute punition est d'abord, punition entre guillemets, est d'abord un tikkun. C'est une réparation. Oui, c'est un réajustement ou une réparation. Oui, c'est comme ça qu'il faut profondément l'entendre. Hein. C'est-à-dire qu'on a simplement, cet ensemble ne tient pas. Alors ils vont être répartis et de là ils vont devoir reconstruire. Oui, donc c'est toujours tout ce qu'appelle Onesh, ça s'appelle Onesh, mais ça veut dire l'idée profonde de Onesh, c'est de permettre à la personne ou au groupe de réparer quelque chose. Éventuellement par un long chemin, mais il y a quelque chose qui est à réparer. Donc traduisez ou bien par sanction, ça veut dire c'est simplement l'aboutissement logique de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire s'ils étouffent leur langue, il ne faut pas s'étonner s'ils n'arrivent plus à se parler. Mais c'est simplement le prolongement. C'est le prolongement et l'effet en retour, c'est-à-dire la réparation qui sera nécessaire. Alors le dernier point me paraissait important, peut-être on va quand même y arriver, ce que leur passe, c'est le Migdal. En Rabbi Yochanan, Migdal, alors encore un truc sorti ex nihilo, littéralement, la tour, Shalish Nisraf, un tiers aurait brûlé, le Midrash veut dire qu'un tiers a disparu purement et simplement, a brûlé, Shalish Nivla, un tiers est enfoncé dans le sol, Shalish Kayam, un tiers continue d'exister. Alors, des ziggourats en Babel, ce que vous voulez, oui. Il reste des tours, des trucs comme ça. Bon, un tiers continuerait d'exister. Omar Rava, voilà, point. Déjà ça, après l'histoire du Havir, M. Donc cette tour, il en reste un tiers. et deux tiers ont subi un sort différent. Un tiers est englouti dans le sol, s'est effondré, englouti sous son propre poids, j'imagine. Et puis, un autre tiers, volatilisé. Il a brûlé, il n'y a plus. Alors, qu'est-ce qu'on décrit là ? Voilà. Évidemment, le Midrash veut suggérer quelque chose, parce qu'il n'y a aucune prétention historique, oui. Mais on veut suggérer, alors, comme vous l'aviez demandé tout à l'heure, le Maharal dit, ça renvoie de nouveau aux trois groupes, oui. Et les trois composants, parce qu'en fait, ils sont unis, c'est une seule et même tour, mais il y a trois composantes.
En fait, a priori, chacun a construit son morceau.
Chacun construit son morceau, mais enfin bon, ils étaient empilés les uns sur les autres quand même, donc les uns avaient besoin des autres. Alors le Maharal suggère que le bout qui est resté, enfin le milieu qui est resté, oui, dans une des premières explications, il dit ça correspond à ceux qui disaient « Naale Venechef Sham ». On va monter là-bas et s'installer. On va se grandir par la tour. On veut se grandir. Alors il dit « Le fait de se grandir en soi, sans faire la guerre à Hachem, sans se masquer à Hachem, juste on veut se grandir, si on l'isole, leur problème c'est que ceux-là sont aussi
mal jugés. » Les Kavnous, l'Avodazara.
Oui, ceux-là aussi, sont, mais peut-être le Maharal veut dire, mais isolés du reste, si on ne les intégrait pas dans le reste, intégrés dans le reste, c'est-à-dire ils étaient côte à côte avec ceux qui faisaient Avodazara ou la guerre, donc ils n'ont pas non plus part au monde futur, mais peut-être le Maharal veut dire, mais si on les isolait, mais une fois isolés, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé les deux autres, isoler ce projet en soi, qui est un projet de se grandir, oui. Si vous arrivez à le détacher du glissement idolâtre ou belliqueux avec Hachem, le fait de se grandir, il dit « L'Oshalou d'Avar Shenoraoui ». Comme ça dit le Maharal, ça c'est un point intéressant. Et la tour existe encore. Oui. « Yesh lomar shel yudé migdalze ou yurot simla alot le ma'ala ve'le chef sham » Il voulait s'élever. « Da'inu liknot hachivut ou ma'ala » Il voulait acquérir de la grandeur. « Oto nishar kayam » Ça, c'est resté. « Kilo aya kamanatam le d'Avar Shenoraoui » En demandant ça, il ne demandait pas quelque chose qui n'est pas convenable, je ne sais pas comment le traduire, Raoui, qui n'est pas bon. Oui, l'homme a le droit, oui, c'est une bonne chose même de vouloir se dresser. Le problème, c'est que ça s'articule. Évidemment, c'est le milieu, ça s'articule avec la base. Ils ont construit leur deuxième étage sur la base, forcément, et puis pour soutenir le dessus, ça s'articule avec autre chose. C'est là où le bas blesse. En soi, le fait de se grandir, de ne pas vouloir ramper, il n'y a rien à redire. Ça, c'est Kayam. Mais ce sont les autres aspects, la dérive, oui, c'est-à-dire la dérive orgueilleuse, oui, la dérive idolâtre, oui. Donc il y a une dérive. Quelque chose est juste, mais il y a une dérive.
Bon, ce qui... On n'a pas réussi à définir exactement ce que ça voulait dire, ces gens qui voulaient demeurer dans le ciel. Ça semble quand même toujours très énigmatique. Je ne sais pas si on a vraiment mis le point là-dessus.
D'après le...
C'est important, là, parce que finalement, c'est eux qui demeurent, c'est eux qui se maintiennent.
Voilà, ils veulent...
C'est
alors...
une espèce de philosophe ou des gens qui se sont perdus dans des méditations...
Leur vestige demeure. Eux, ils vont être les fixables. Attention. Oui. Eux, on va les...
Alors, c'est d'autant plus surprenant, je veux dire...
C'est le vestige...
Alors, c'est quoi? C'est un témoignage?
Un témoignage d'une vision prométhéenne.
Mais ce que je comprends.
Qui a échoué, parce que. Qui a échoué a priori par synergie.
Par la synergie, c'est-à-dire que si on l'avait isolé, s'il ne s'était pas non articulé au reste, il y avait une possibilité. C'est-à-dire, on veut quand même dire, on veut laisser. Hachem n'a pas détruit complètement la tour, comme si vous dire, moi je ne veux pas écraser l'homme. Je veux que l'homme puisse se dresser. Un petit peu comme si Hachem voulait dire ça, comme si vous dire, ils n'ont pas demandé quelque chose qui n'est pas Raoui. Le fait que l'homme veuille se dresser, comme si Hachem disait, moi je suis d'accord. Simplement, il faut qu'il trouve le chemin. Il faut qu'il trouve le chemin. Alors, quel est ce chemin? Ça n'est pas dit ici. Oui, faut peut-être voir la suite du texte. Vers quoi on évolue? Vers quoi on avance? Oui, en fait, après Dora Flaga. Oui, c'est ça qu'on veut dire. Oui, c'est la suite. Oui, c'est la suite. C'est la suite du texte. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire que. C'est-à-dire que quand on part. Quand on suit dans le texte après Dora Flaga, oui, eh bien on arrive à l'histoire d'Abraham. Donc c'est ça l'enchaînement. C'est ça, il faut aller à c'est la suite, quoi, l'épisode suivant, si vous voulez. L'épisode suivant, la suite du texte. Le texte nous amène à la proposition d'Abraham.
Ah, cela, on trébuchait justement. On a le sentiment que eux, quelque part.
Un peu brûlé par synergie.
Se sont un peu brûlés les ailes, quoi.
Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est que c'est la synergie ou le collectif dont on parlait avant. Un midrash que j'avais vu dit. que Abraham aussi, il vivait à cette époque-là, et il a refusé de rentrer dans ce projet. Il a suivi son chemin seul. Oui. Donc ici, Abraham a une individualité forte. Oui. Il y a une volonté que l'homme se grandisse, mais il va falloir qu'il le fasse par lui-même, pas en s'appuyant sur une collectivité, pas sur un ensemble. Donc, et là, s'il doit s'appuyer sur lui-même, d'autres portes s'ouvrent. On peut encore, en voulant s'appuyer sur soi-même, être dans l'orgueil, mais disons, il y a autre chose, il y a autre chose. Voilà.
Développer son
un mouvement propre de l'homme, je serais tenté d'appeler ça, son mouvement propre, et non pas un mouvement collectif où l'homme n'a plus son mouvement propre. Bon, ce genre de... Le nom de l'homme, Béni Lévi. Oui.
Abraham.
Oui, oui, et l'homme se fait un nom. Donc ici, c'est le na, c'est la nous, oui. C'est très compliqué, vous voyez, c'est le na, c'est toujours ce pluriel. C'est le nous, c'est toujours ce pluriel, oui. C'est ce pluriel qui pose problème. Abraham va s'opposer, il va être un homme qui a une démarche par lui-même, oui, qui concerne aussi beaucoup de gens, beaucoup de guérim, beaucoup de gens autour de lui.
Mais d'où le nivné. Oui. D'où tous les nivnés, en fait, finalement.
Oui, tous les nivnés.
Non pas par le projet.
Oui.
Mais
le pluriel, oui.
Mais le pluriel, en fait.
Oui, le pluriel, c'est le collectif.
C'est pas le projet, parce que c'est toujours la réalisation qui est problématique. Le projet, on peut pas faire un procès d'intention. Mais c'est systématiquement, a priori, c'est le fait qu'on fait ça à plusieurs. Un projet d'émergence d'un homme doit être quelque chose d'une
Abraham, il a une tente ouverte, comme on dit, aux quatre coins. Il a une tente ouverte, mais il n'a pas une tour. Tout le monde peut rentrer chez Abraham, toute l'humanité passe chez Abraham, mais ce n'est pas une tour, ce n'est pas un migdal. Vous voyez, c'est une tente ouverte, c'est nos démarches.
C'est tellement
difficile,
on comprend quand même cette tentation, cette génération.
Ah oui, c'est la tentation de toujours.
C'est seul comme ça en fait, c'est quand même.
Sans béquille, sans aucune béquille.
Sans aucune béquille. C'est quand même très, très difficile.
Oui, même au niveau interne, vous savez, c'est le basculement, je serais tenté de dire, c'est le basculement du shtibel, c'est-à-dire d'un petit endroit de prière à une communauté. Oui, une communauté, c'est toujours compliqué. C'est pas d'or à flaga, mais cette tentative de résoudre les problèmes sur un plan communautaire, il faut toujours bien y réfléchir, quoi. Mais on n'ouvrira pas le dossier, quoi. Non, mais c'est sûr que c'est un problème, c'est un petit peu ça. Ça veut dire, dès que l'homme se démet sur le collectif, il y a un problème. Quelqu'un veut demander quelque chose ? Ça dépend du degré de démission de chacun dans le collectif. Il peut y avoir un collectif pour renforcer, pour organiser, pour gérer, oui. C'est le problème, c'est de la démission de l'individu sur la tour, sur le collectif. C'est la tour ici qui construit tout. Il y a plus de, comme d'ailleurs, c'est ça que veut dire le Midrash. Pour construire la tour, si quelqu'un tombait, vous connaissez tous ce Midrash, si quelqu'un tombait, c'était pas grave. Par contre, si on perdait une brique, ça, c'était dramatique. La tour...
C'est une conclusion entre le but et les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont fait du collectif un but, alors que ça doit rester un moyen.
Ça doit rester un moyen, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que
à se grandir lui-même. C'est un peu
Et la tour mange...
Le peuple juif, c'est un véhicule pour les...
La tour,
les Juifs, c'est jamais le but de rester,
le collectif engloutit la personne. Si le collectif engloutit, alors c'est ça qui est décrit ici, c'est qu'on a une tour qui engloutit, ouais, qui engloutit, il n'y a plus d'individu, plus de personne. La tour engloutit l'individu. Ouais.
En soi, le collectif, c'est pas mobile.
Non, comme outil, effectivement.
Mais il faut pas en faire une fin.
C'est le Nas et la Nouchem, voyez, le collectif comme Nas et la Nouchem.
Non, si on poursuit l'idée jusqu'au bout, ça mène à un totalitarisme. Si on parle de l'individu, n'est plus rien.
C'est le collectif comme. Le Nas et la Nouchem.
Parce qu'on lui retire sa responsabilité.
Oui, le Nas et la Nouchem par le collectif. Le Nas et la Nouchem par le collectif. Le collectif peut servir un tas de choses, mais s'il occupe la place du Nas et la Nouchem, on veut se grandir par le collectif. Non. Oui. Avram se fait un Shem. Oui. Vegadal Hashimra, je grandirai ton nom, effectivement. Donc c'est une problématique d'avoir un nom, mais l'homme a un nom. Oui.
Non, mais c'est Dieu qui lui fait.
Il a un nom unique. Quoi.
Oui.
Avram,
oui. En plus, il ne se le fait pas. Oui,
il
ne
se fait pas. C'est Dieu.
Voilà.
C'est
mais tout ça va ensemble. C'est le Nas et le collectif qui se fabrique un nom. là où l'homme acquiert, disons, acquiert un nom, ouais, devant Hachem, il acquiert un nom, on se dira sinon, oh, tout ça, ouais. Si vous voulez, c'est pas l'objet de ce cours, mais c'est ça le point de basculement entre le Nas et le Nushem et Vegadacha Shemcha. Shemcha, je grandirai ton nom, ouais. Je te grandirai, je grandirai ton nom. Voilà. De Abraham, oui, qui ne passe pas par le nom d'un ensemble. Et ça, très souvent, c'est symptomatique. Hein, on voit que on fait un ensemble pour que l'ensemble n'est pas que fonctionnel, oui, mais qu'il sert à promouvoir quelque chose. Oui. Alors bon, il y a des degrés dans les choses, mais on est dès lors que c'est le Nas et l'Anushem, petit à petit niveau ou à grand niveau, oui, il y a quelque chose qui se perd. Oui. Il y a quelque chose de l'homme qui se perd. Hein. Faut pas oublier qu'ils sont sortis de là simiesques, hein, enfin comme des singes ou comme des chédimes. Oui. On est dans une déshumanisation, oui, déshumanisation dès lors que c'est le collectif qui prend en charge la grandeur des hommes. Peut-être on va conclure, mais on va conclure, oui.
On n'a pas le temps de faire en fait le minute.
Oui, c'est bon. Voilà. Bon, on en restera peut-être là avec quelques questions, beaucoup de questions. Voilà. Bien. Je vous remercie de votre patience. Voilà.
Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre
les rabbins
qui
étaient
juifs et des gens qui étaient brûlés ou avec les fautes qu'il y a eu justement avec
Oui, en général les fautes correspondent et justement ici. Ah oui, très très bien, ouais. Très très bien, oui. Le Maharal dit ça.
Il y a un déni de Dieu.
Oui, le Maharal dit ça, c'est très bien que vous y pensiez. Le Maharal dit justement pourquoi c'est ceux qui ont fait la guerre qui sont engloutis, parce que la guerre, le Maharal assimile à la marloquette c'est Korar, et ça c'est Nivla. Et ceux qui. Oui, mais il faut quand même ouvrir, il faut quand même traduire. Et il dit pour ceux qui ont fait Avodah Zara, ça c'est la partie qui a brûlé, parce que par rapport à Avodah Zara, c'est marqué quel canot, Hachem il est jaloux, Esh Ochla. Mais c'est juste une manière de faire des référents. On n'a rien dit quand on a dit ça, mais effectivement, il y a l'allusion à Korar d'un côté, l'allusion au feu dévorant. Voilà, ce sont des registres. Ce sont des ouvertures que le Maharal fait. Il est très long, le Maharal, sur ça. Hein, c'est dans les Hidushé Agadot, sur Sanhedrin, sur la Gemara. Il y en a 4 pages. Hein.
Vous les récupérez sur ibubook, si vous voulez. .com. Ibubook, ouais.